Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message, le troisième exode, prêché le 30 juin 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Tout est possible. Crois seulement. Inclinons notre tête pour un mot de prière. Et tandis que nos têtes sont inclinées, je me demande si quelqu'un voudrait présenter à Dieu une requête spéciale, qu'il lève la main, gardez votre requête de prière sous votre main. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler encore une fois de ce côté-ci de l'éternité. Nous attendons ce matin à recevoir de toi des forces renouvelées afin d'avoir le courage d'aller de l'avant dans le voyage qui est devant nous. Nous nous rassemblons comme les Hébreux qui sortaient tôt le matin pour recueillir la manne qui leur avait été dispensée pendant la nuit, afin de les restaurer pour la journée qui s'annonçait. Nous nous réunissons ce matin pour recueillir la manne spirituelle qui nous donnera la force de continuer notre voyage. Seigneur, tu connais tous les besoins qui sont présentés dans ces mains qui se sont levées. Et je joins ma prière à la leur, afin que tu pourvoies à tous leurs besoins. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu et que tu peux faire toutes choses et que tu as promis de le faire si nous pouvons simplement faire comme nous le montre ce cantique, crois seulement. Comme nous l'avons entendu dans sa parole glorieuse, marcher et parler avec le roi. Maintenant, Père, bénis ta parole, tandis que nous l'annonçons ce matin, qu'elle puisse trouver un lieu où demeurer dans notre cœur, afin qu'elle puisse nous apporter les choses que nous te demandons. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois qu'il a été dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En quittant Hot Spring hier, Frère Moore m'a dit, Frère Branham, pourquoi ne viendrez-vous pas chez nous au Texas? Il y a là-bas une convention et vous pourriez vous reposer quelques jours. Je lui ai dit, j'ai deux services demain. Il a dit, deux services? J'ai dit, oui. Il a dit, lorsqu'un prédicateur prêche rudement comme vous le faites, il devrait pouvoir se reposer une semaine après chaque prédication. Regardez les pasteurs, ils donnent leur message du dimanche matin, puis ils se reposent tout le reste de la semaine. Et ce n'est qu'un petit message d'une trentaine de minutes. Tandis que vous, vous prêchez pendant 2 ou 3 heures jour après jour. Quelquefois, vous prêchez même 2 fois par jour. Et après votre prédication, vous faites encore une ligne de prière avec tout ce discernement. Et vous dites qu'aujourd'hui, vous allez rentrer à la maison et que dimanche, vous allez prêcher encore 2 fois. Bien sûr, comment faites-vous? J'ai dit, mon secours vient du Seigneur. L'heure est avancée. Comme l'a dit quelqu'un dans sa prière au moment où j'entrais, l'heure est avancée et les besoins sont grands. C'est pourquoi nous sommes ici, pour essayer d'apporter notre contribution à cause de l'heure glorieuse dans laquelle nous vivons. Ce soir, si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur ce sujet. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? Je voudrais l'enregistrer. Je ne sais pas si la prédication de ce matin est enregistrée, mais j'ai vu quelques-uns des responsables de l'enregistrement là-dedans. Je pensais que Frère Neville ferait ici. Je lui avais proposé dimanche passé de donner son message et qu'ensuite je viendrai et apporterai quelque chose moi-même. Mais s'il désire enregistrer la leçon d'école du dimanche, ce sera très bien. Dimanche prochain, si le Seigneur le veut et que nous sommes ici, j'aimerais parler sur un sujet que j'aurais voulu présenter il y a longtemps déjà et conformément à la promesse que j'avais faite, et je présenterai ce message, lequel doit être enregistré ici au tabernacle pour commencer. Dans ce message, je voudrais accuser cette génération de crucifier Jésus-Christ. Je parlerai de cela dimanche prochain, le matin, si le Seigneur le permet. Ce soir, à 7 h ou 7 h 30, je parlerai sur ce sujet. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? Quelquefois, en présentant ce message, je dis des choses passablement tranchantes. Quand je dis ces choses, je ne pense pas spécialement à cette église-ci. Rappelez-vous, ce que je dis est enregistré et va dans le monde entier. Nous avons un service de distribution de banque qui couvre le monde entier, qui nous permet de distribuer ces messages jusqu'au fond de la jungle. Et le Saint-Esprit me conduit quelquefois à dire des choses qui pourraient concerner une personne en particulier en Australie ou à un endroit quelconque. C'est pourquoi vous pourriez dire, dans certains cas, « Cette situation n'existe pas chez nous. Pourquoi dit-il cela? » Mais peut-être que cela est dit pour un autre endroit, vous voyez. Je suis sûr que vous comprenez cela. Ces messages ne sont pas adressés à quelqu'un en particulier. Ils sont adressés à l'Église, dans son ensemble, en tout lieu. Nous disons tout ce que le Seigneur nous conduit à dire et à faire. J'ai passé des moments glorieux à Hot Spring, dans une rencontre de pentecôtistes à l'ancienne mode. Je suis sûr que ceux qui sont là, allés là-bas ont aimé ces pentecôtistes. Je ne connaissais pas ce groupe. Je devais aller là-bas une semaine, mais je n'ai pu leur donner que 2 ou 3 jours. Et il y a une chose que je voudrais dire. C'est que dans ce groupe, ils savent ce que c'est que la foi. S'il y en a ici qui sont allés à ces rencontres, je reconnais cette dame assise là dans un coin, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle était là. Il y avait aussi quelques frères, entre autres frère Jackson et frère Palmer. Voilà ce que les gens reçoivent quand ils ont la foi, vous comprenez? Vous avez remarqué cette ligne de guérison? Aucun de ceux qui sont entrés dans la ligne n'est sorti autrement que guéri par Dieu. Lorsque vous avez la foi, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas cette émotion, ces cris, ces danses. Comprenez bien qu'ils ne font pas cela pour le public. Ils crient et dansent devant Dieu, c'est tout. Et je voudrais aussi dire ceci, c'est que je n'ai jamais vu un groupe de femmes d'apparence aussi pure. Elles avaient toutes les cheveux longs. Quand je pense à l'apparence de certaines personnes que j'ai vues sortir du fond de la jungle, je ne crois pas en avoir vu ayant l'air plus moderne. Vous savez ce que je veux dire? Maquillée et tout le reste. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'enseignent ces pentecôtistes, mais pour cela, je suis entièrement d'accord avec eux. Pour moi, ces pentecôtistes avaient vraiment l'apparence de chrétiens. Hier ou avant-hier, le Seigneur me conduit à parler sur ce sujet juste une fois encore, Seigneur. Peut-être que certains n'ont pas compris que j'ai parlé là-dessus par exprès, parce que le Seigneur m'y avait conduit. Ce petit groupe était en train de glisser dans quelque chose, mais le Seigneur avait pourvu à cela. C'était tout simplement merveilleux. Vous savez, comme les choses se passent, si vous n'avez pas la vision spirituelle, vous ne cessez rien du tout. Il faut que nous nous attendions à ces choses. Au moment où j'entrais, le frère Ungring était en train de chanter. C'est peut-être la deuxième fois que je l'entends chanter. Il chantait « Je marche avec le roi et je parle avec lui ». Je pensais « N'est-ce pas beau ?» Marcher avec le roi et parler avec lui, cela signifie une communion constante. Pas seulement dans une église, mais en tout lieu. Marcher et parler avec le roi. Regardez là, sur le mur, il y a une carte et une petite peinture faite par un homme nommé George Todd. Il l'a peinte pour moi. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Peut-être qu'il ne s'est pas lui-même posé la question. Il a peint un paysage, une montagne au loin, derrière une forêt. Un petit ruisseau coule en murmurant. Sur la rive de l'autre côté, se tiennent un cerf et son faon, l'oreille dressée, regardant de ce côté-ci du ruisseau. Je ne sais pas si M. Todd est ici, je ne le connais pas. Mais je voudrais dire ceci. Le Seigneur m'a parlé quand j'ai regardé cette peinture. Peut-être que cet homme ne savait pas ces choses lorsqu'il fit cette peinture. Vous vous souvenez de cette petite histoire du chef qu'un homme allait abattre? La mère était là avec son petit près des eaux de la vie, vous comprenez? Il a eu l'inspiration de montrer ce cerf avec son petit, et moi, j'y ai pensé. C'est vrai. De l'autre côté, près des arbres aux feuilles toujours vertes, j'ai moi aussi une mère et son enfant qui attendent. Merci, frère George Todd, si vous êtes ici ce matin. Maintenant, je voudrais donner ma leçon d'école du dimanche. D'habitude, je parle assez longtemps. J'ai un sujet sur le cœur. Je ne sais pas depuis quand. Peut-être depuis hier. Je vieillis et je ne sais pas pendant combien de temps je resterai parmi vous. Mais il y a dans l'Église un grand sujet qui a causé pas mal de désaccords entre les hommes. C'est comme la fameuse pomme, manger la pomme. J'ai prêché là-dessus et je crois fermement que l'on peut prouver par les Écritures qu'il ne s'agissait pas d'une pomme. Cela a causé beaucoup de confusion. Vous savez que dans un mois environ, nous devrons retourner en Arizona. Mais avant que partir, j'aimerais, Dieu voulant, parler d'un sujet dans les Écritures qu'il vaudrait mieux ne pas enregistrer. Si vous le faites, ne vendez pas la bande. Je veux expliquer la vérité au sujet du mariage et du divorce. C'est une question importante. Et nous sommes dans les derniers temps et tous les mystères de Dieu doivent être révélés. Hier, en passant dans les montagnes à l'aube, il me sembla entendre le Saint-Esprit me dire, « Enregistre cela et mets-le de côté. » Je ne sais pas pourquoi. Mais pour ce qui est de la vérité au sujet du mariage et du divorce, il y en a qui disent « On peut se remarier si l'on peut jurer que l'autre a commis l'adultère. » D'autres disent « S'ils se disputent sans cesse et qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, mieux vaut avoir la paix que de vivre en enfer sur cette terre. » Il y a toutes sortes de questions qui sont posées. On se marie de toutes les manières possibles. Il y en a qui les aspergent d'un peu d'eau bénite en leur disant que c'est comme s'ils n'avaient jamais été mariés, qu'ils les bénissent et les font rentrer dans l'Église. Il y a une grande confusion, mais ici, s'il y a une telle confusion, c'est qu'il doit y avoir une vérité quelque part. Je le crois et je le dis en toute humilité. Je crois que le Seigneur m'a révélé la vérité à ce sujet. Mais si l'on répandait cela dans les églises, cela risquerait de causer d'énormes dégâts. Je préférerais que seuls les pasteurs qui sont dans les églises reçoivent les bandes et qu'ils les fassent jouer et ils peuvent conduire leur assemblée à partir de là. Mais j'aimerais enregistrer cela simplement afin de montrer où est la vérité concernant cela. Je crois que nous vivons dans les temps où ces mystères doivent être terminés, achevés. Nous avons montré ces choses en étudiant les sept âges de l'Église et les sept sceaux, et maintenant nous approchons du temps où il faudra s'occuper de ces sept trompettes et des sept coupes. Nous pourrions peut-être faire une série de réunions s'étendant sur deux semaines et traiter le tout ensemble. J'aimerais pouvoir enregistrer cela. D'autre part, nous essayons maintenant de préparer les épreuves du livre des sept âges de l'Église et de faire sept bandes, tâchant d'arriver à faire quelque chose d'aussi bon marché que possible afin que cela soit accessible à tous. Ensuite, si le Seigneur tarde et que je m'en aille, vous verrez les choses que je vous ai prédites au nom du Seigneur arriver comme je vous les ai annoncées. Aucune n'a jamais manqué d'arriver. Il y a encore quelques-unes qui doivent arriver plus tard. J'ai confiance que le Seigneur nous laissera faire cela sans tarder. Nous vous avertirons à temps parce qu'il y en a beaucoup qui aiment venir écouter ces choses. Ce que j'apprécie, si personne ne croyait qu'on écoutait ces choses, à quoi servirait-il que je vienne ici en parler, vous comprenez? Si personne ne voulait croire, ce serait comme jeter les perles devant les pourceaux. Mais il y en a des milliers et des milliers qui croient et ils s'attachent à chaque parole. C'est pourquoi lorsque nous préparons ces rencontres, nous tâchons de faire en sorte qu'ils viennent le plus de monde possible pour la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu nous montrera cela. D'ailleurs, je ne voudrais rien faire sans avoir été divinement inspiré. Dieu a un temps pour tout, vous comprenez? Vous ne devez pas le devancer. Si vous envoyez votre moissonneuse-batteuse dans la moisson avant qu'elle soit mûre, vous en perdrez la plus grande partie. C'est pourquoi lorsque la faucille est prête à être jetée, Dieu la jettera. C'est à ce moment que nous récolterons. Je me sentais tellement poussé à présenter ce sujet que je me suis dit que je le laisserais d'abord de côté pendant une courte période. Hier, je n'ai pas pu penser à rien d'autre toute la journée. Comme d'ailleurs toute la nuit, je suis allé au lit vers minuit, mais je ne pouvais pas dormir. La nuit précédente, je n'avais dormi que 3 heures d'environ. Il y avait quelque chose qui me disait sans cesse, enregistre cette prédication sur le mariage et le divorce, voyez. Si le Seigneur le veut, cela reste ainsi sur mon cœur, et si le Seigneur me montre encore quelque chose de plus sur ce sujet, je pense que je ferai cet enregistrement. Mais rappelez-vous bien cela, elle ne doit être distribuée qu'aux pasteurs et prédicateurs. Vous pourrez venir écouter, mais pour ce qui est de l'enregistrement, vous comprenez, c'est parce que cela ira dans toutes les assemblées et que certaines pensent d'une manière et d'autres d'une autre manière et que chacun se ferait son opinion personnelle. Je voudrais que mes frères dans le ministère prennent connaissance eux-mêmes de cette prédication puisqu'ils disent les choses eux-mêmes parce que ce sont eux les responsables. Ils pourraient faire entendre cette bande aux juges de paix et aux magistrats afin qu'ils sachent ce que le Seigneur dit au sujet du mariage et du divorce. C'est quelque chose de plus sacré que ce qu'on en pense et cela s'accorde parfaitement avec la semence du serpent. C'est simplement la même chose, ça s'enchaîne. Ce sont ces mystères. Vous vous souvenez qu'au jour du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient terminés. Toutes ces choses inconnues que le Seigneur ramènerait maintenant jusqu'à... Ce soir, vous commencez à 7h30, n'est-ce pas, Frère Neville? Si vous avez un message pour ce soir, veuillez le présenter. Je n'en aurai moi-même pas pour plus de 45 minutes ou une heure. J'aime écouter Frère Neville. Je l'aime. Il est mon frère. Et je pense qu'il est un orateur formidable. Il est un ministre merveilleux. Ce que j'aime chez Frère Neville, c'est qu'il vit ce qu'il prêche. C'est cela le principal. Savez-vous que vous pouvez vivre une prédication à quelqu'un bien mieux que de la lui prêcher? Vous êtes manifestement une épître de Christ lue de tous les hommes. Nous pouvons ouvrir le livre, mais c'est Dieu qui doit introduire cette leçon d'école du dimanche. C'est pourquoi demandons-lui de le faire. Père Céleste, c'est par la foi que nous examinons les choses futures. Je regarde maintenant, par la foi, Seigneur, vers quelque chose qui se produira sur la terre, qui poussera ton peuple à se rassembler. Nous voyons ces églises dénominationnelles tellement pleines de contraintes et de divergences que cela pousse vraiment les gens à sortir, tout comme c'était en Égypte, où un pharaon se leva qui ne connaissait pas Joseph. Comme cela a été en Allemagne et en Russie et en Italie, ce fut pareil. Il se leva dans ces peuples des Joseph, des Hitler, des Staline, des Mussolini, qui haïssaient le peuple juif. C'est pourquoi ceux-ci furent obligés de rentrer dans leur pays. Oh Dieu, tu as des manières de faire que nous ne comprenons pas. Ils furent arrachés à leur maison. Plus de maisons en Allemagne. On s'emparait de tous leurs biens. Cela se passa en Italie et en Russie, ne pouvant plus aller nulle part. Ils furent renvoyés dans leur patrie. Tout cela simplement pour accomplir la parole. Oh, la main aimante de Dieu. Quelquefois, quand on voit comment le peuple doit souffrir, il semble qu'elle soit bien cruelle, mais malgré tout ça, c'est la main douce de Jéhovah qui conduit ses petits-enfants. Seigneur, nous t'en remercions. Seigneur, nous t'adressons nos prières quand nous voyons les pressions que les dénominations exercent sur les croyants, les excommuniant, les obligeant à inscrire leur nom sur leur livre, les menaçant sans cela d'être perdus, les obligeant à couper tous les ponts avec les autres groupes. Ce n'est rien d'autre que la douce main de Jéhovah conduisant les siens à l'arbre de vie. Ô Dieu, je te prie que chacun y soit conduit. Je sais qu'ils le seront, car c'est ta parole qui le dit, et elle ne peut pas faillir. Puissions-nous être conduits à l'arbre de vie afin d'entrer en possession de la vie éternelle. Puissions-nous voir la main de Dieu et par les yeux de la foi regarder au-delà de ces ombres dans lesquelles nous marchons aujourd'hui et voir la terre promise qui s'étend là devant nous. Seigneur, veille bénir ta parole ce matin, ainsi que ces quelques notes que j'ai prises. Que le Saint-Esprit puisse venir maintenant, tandis que je me consacre en ce moment même, afin de recevoir la circoncision de ma langue, de ma pensée et de mon esprit, et que cette assemblée consacre les oreilles de son entendement, de son cœur, et que tu puisses nous parler à tous à travers ta parole, car ta parole est la vérité. Nous le demandons au nom de la parole, Jésus-Christ. Amen. Nous prenons maintenant nos Bibles pour lire dans le livre de l'Exode. Nous lirons maintenant Exode, chapitre 3, versets 1 à 12. Écoutons attentivement alors que nous lisons. Exode, chapitre 3, versets 1 à 12. Maintenant, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Je voudrais mettre l'emphase sur cela. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, « Je le suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jubésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Avez-vous remarqué cela? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu allant dans la forme d'un homme. Relisons encore une fois ce verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, je vous demande pardon, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je ne l'avais pas remarqué, mais me sentant profondément inspiré par l'Esprit ce matin, je viens de saisir cela. Dieu a ramené son serviteur à le lieu d'où il s'était enfui et lui a donné comme signe une montagne. Je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Ce sera un signe éternel pour toi. Vous comprenez? Ce matin, nous parlerons au sujet du deuxième exode du peuple de Dieu. De l'appel à sortir du peuple de Dieu. Exode signifie conduit hors de, appelé à sortir de, emporté hors de. Je voudrais utiliser ce texte comme sujet pour parler du deuxième exode du peuple de Dieu. Bien entendu, ils ont eu beaucoup d'exodes, mais je veux parler du temps que Dieu a appelé un exode, c'est-à-dire une séparation d'avec le lieu où ils étaient alors. Voici que Dieu se préparait à remplir la promesse divine de la parole qu'il avait donnée à Abraham, Isaac et à Jacob. Des centaines d'années avaient passé, mais Dieu n'oublie jamais sa promesse. Au temps marqué, Dieu accomplit toujours sa promesse. C'est pourquoi vous pouvez être assuré que ce que Dieu a promis dans sa Bible, il l'accomplira. Inutile d'essayer de penser autrement et de dire, « Oh, peut-être que le prophète s'est trompé. Cela ne peut plus arriver de nos jours. » Cela semblait presque impossible en ce temps-là. Plus impossible encore que cela nous paraît aujourd'hui. Mais Dieu l'accomplit tout de même, car il avait promis qu'il le ferait. D'ailleurs, voyez avec quelle simplicité il l'a fait. « Je suis descendu. J'ai entendu leur cri. Je me suis souvenu de ma promesse et je me suis venu pour l'accomplir. C'est pourquoi je t'envoie. Tu agiras et je serai avec toi. Certainement, je serai avec toi. Ma présence qui ne faillit jamais sera avec toi où que tu ailles. N'aie pas peur. Je suis descendu pour délivrer. Je suis sûr que la pensée spirituelle saisit cela. Je t'envoie pour conduire mon peuple dans un exode, pour les appeler à sortir, et je serai avec toi. Comme combien nous pouvons nous appuyer là-dessus? Comme la foi peut saisir cette espérance, Dieu agira, il l'a promis. Peu importe les circonstances ou ce qu'ils diront les gens, Dieu le fera de toute manière, parce qu'il a promis de le faire. Et il le fait avec une telle simplicité que cela passe au-dessus de la compréhension de l'esprit cultivé qui essaie de raisonner là-dessus. Il dira, comment cela pourrait-il se faire? Je ne veux pas dire qu'un homme ayant une solide intelligence et une bonne instruction ne pourra pas comprendre ces choses. Tout cela est très bien, pour autant qu'il n'utilise pas sa culture pour raisonner, mais pour croire en Dieu. Que sa culture se convertisse en la simplicité d'écouter et de croire ce que Dieu dit, alors elle lui sera utile. Remarquez bien que lorsqu'on essaie de prouver par le raisonnement que cela ne peut arriver, on est conduit loin de Dieu. C'est toujours ainsi. Cela arrive lorsque l'on essaie d'écouter sa propre compréhension. Si la Bible dit une chose que vous ne comprenez pas, ponctuez simplement par un « Amen » et passez plus loin. Pour cette leçon d'école du dimanche, au lieu de regarder dans les Écritures, vous pouvez aussi noter les références si vous le désirez. J'en ai marqué beaucoup. Avant de découvrir ce que signifie cet exode, je voudrais comparer l'exode d'autrefois avec l'exode d'aujourd'hui. Vous pouvez voir que ces deux événements sont exactement parallèles. L'un d'eux est dans les choses naturelles et les choses mêmes qu'il a faites en type dans le domaine naturel, il les a faites de nouveau dans le domaine spirituel. C'est l'exode spirituel. La parole de Dieu est merveilleuse. Comment y a-t-il qui peuvent dire qu'elle n'est pas inspirée? Ces événements se passaient il y a environ 2800 ans, vous savez. Nous pouvons voir comment il a fait cette promesse et comment il l'a accomplie. Ces choses nous ont été décrites afin de nous servir d'exemple. Nous voyons comment il fait l'ombre d'une chose afin de rendre témoignage à la chose positive, réelle. Si le Seigneur le permet, nous verrons ce soir en considérant le soleil et la lune. Mais premièrement, nous devons parcourir la Genèse pour savoir pourquoi ils étaient en Égypte. Pourquoi le peuple de Dieu était-il sorti de son pays? Dès le commencement, Dieu avait fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob en Palestine. Il leur avait donné le pays en leur disant, « C'est là. » Alors pourquoi ce peuple n'était-il pas à la place que Dieu lui avait donnée? Voilà une question valable encore aujourd'hui. Dieu nous a donné une Pentecôte. Il nous a donné un livre des Actes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire et pour nous guider. Il nous a donné un pays. Pourquoi sommes-nous à l'extérieur? Pourquoi l'Église est-elle sortie à l'extérieur? Pourquoi la grande Église chrétienne d'aujourd'hui ne vit-elle pas de nouveau comme dans le livre des Actes, produisant les mêmes choses? Il doit y avoir une raison à cela. Nous sommes en pleine dispersion, dans une situation terrible. La chrétienté n'a jamais été dans un état aussi affreux qu'aujourd'hui. Il y a un grand et terrible jugement qui est sur le point de tomber sur l'Église. Mais avant que ce jugement puisse tomber, Dieu nous appelle à un exode exactement comme il l'a fait autrefois. Le péché des Amoréens est monté jusqu'au ciel. C'est pourquoi il nous appelle à un exode spirituel. Mais retournons un moment en arrière pour découvrir le type de ces choses. Ils étaient allés en Égypte à cause de la jalousie qu'ils avaient à l'égard d'un de leurs frères. C'est la raison pour laquelle Israël était en Égypte en ce temps-là, au lieu d'être dans son pays. Rappelez-vous bien que les promesses de Dieu n'étaient valables qu'aussi longtemps qu'ils resteraient dans leur pays. Pouvez-vous comprendre de quoi nous parlions dans la prière il y a quelques instants? Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? C'est parce qu'il devait ramener le peuple dans la terre promise avant de pouvoir le bénir, avant de pouvoir leur envoyer le Messie. Pourquoi il a endurci le cœur d'Hitler contre les Juifs alors qu'Hitler était lui-même demi-juif? Pourquoi a-t-il dû faire cela avec Staline, avec Mussolini? Voyez, quand un peuple n'est pas inspiré comme une nation, Dieu doit prendre les choses dont ils vivent, souvent même les lois du pays, afin de faire se réaliser ses promesses. C'est pourquoi il a dû endurcir le cœur de ses dictateurs pour chasser les Juifs vers la terre promise. Il fallait qu'il en soit ainsi. Au sujet de l'histoire de Joseph, vous trouverez cette histoire dans la Genèse et vous voudrez bien la lire chez vous parce que j'ai commencé à cette leçon d'école dimanche un peu tard et il faut que je me dépêche. N'oubliez pas de lire cette histoire quand vous pourrez. Joseph était né après ses frères, le dernier. Il était l'avant-dernier. La pensée spirituelle comprendra cela tout de suite. Il n'était pas le dernier enfant, c'était Benjamin. Mais considérez l'excommunication, Joseph et Benjamin étaient de vrais frères de sang, c'étaient les seuls. Benjamin n'a jamais été reconnu avant d'avoir rencontré Joseph. Mais après, Benjamin a reçu une double portion de tout ce que donna Joseph. Remarquez qu'il fut séparé de ses frères parce qu'il était spirituel. Bien que le dernier et le plus humble de la famille, il était un grand homme et ses frères l'ont haï sans cause. Il n'aurait pas dû le haïr, il aurait dû le respecter. Mais pourquoi le haïssait-il? Parce qu'il était un de leurs frères? Pas exactement. Il le haïssait parce que Dieu agissait plus par lui que par les autres. Dieu lui avait donné une compréhension spirituelle. Il pouvait interpréter parfaitement les songes. Il pouvait annoncer parfaitement les choses qui allaient arriver. Et il ne mâchait pas ses mots. Il a eu le songe de ses gerbes qui se prosterneraient devant sa gerbe. Cela rendit ses frères furieux contre lui. Je m'imagine les entendre lui dire, espèce de petit exalté. Il savait que cela pouvait dire qu'un jour, il devrait se prosterner devant lui. C'est exactement ce qui arriverait. Comment ces grands géants auraient-ils accepté de se prosterner devant ce petit gamin insignifiant? C'est pourtant ce qu'ils firent. Ils durent implorer sa miséricorde. Mais en ce temps-là, il n'avait pas de puissance. Il était encore un enfant. Nous voyons qu'à cause de ses songes, Joseph a été ôté du milieu de ses frères, la dénomination, et placé dans un lieu seul, alors que ses frères occupaient tout le pays. Mais voici quelque chose de glorieux. Nous nous rendons compte que tant qu'Israël resta dans son pays, c'était très bien de rester dans leur territoire. Mais malgré tout cela, ils chassèrent l'esprit. Aujourd'hui, les fondamentalistes connaissent leur position par leur compréhension intellectuelle de la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils ont rejeté Joseph, l'ont chassé dehors. Ils n'avaient rien de cela. Ils disent que ce n'est que du fanatisme, que de l'exaltation. Ils disent, nous ne voulons rien avoir à faire avec ces choses. Ils l'ont excommunié, vendu au monde. Ces gens sont hors de leur communion. Mais en faisant cela, ils ont pris... Ils sont sortis de leur place et plus tard, ils ont été déportés en Égypte. L'histoire de ces frères jaloux offre certainement de nombreux points communs avec ce qui se passe aujourd'hui dans les choses spirituelles. Nous sommes bien conscients de tout cela. Ce n'était que pure jalousie. Non pas une pure jalousie, mais cette vieille jalousie sale et souillée. Il n'y a pas de pureté dans cette jalousie-là. C'est une jalousie mauvaise. Quand ils voient la Bible et la nature de ce Dieu qu'il a écrite et se confirmant lui-même et qu'il la rejette sans raison, eh bien, même si je dis que c'est par pure jalousie, c'est une jalousie souillée. Ils ont pu voir Dieu guérir les malades et ressusciter les morts. C'est le même Dieu que celui qui vivait du temps des apôtres. C'est le même évangile que celui qu'ils écrivirent pour nous préparer à ce voyage spirituel. C'est le même Dieu qui fait les mêmes choses, mais il n'y a que de la jalousie. Ils l'ont excommunié en disant, « Nous ne voulons pas de cela parmi nous. » Et ils l'ont chassé. Les frères de Joseph ont pensé qu'ils n'avaient pas besoin d'un tel homme. Alors, pourquoi ne pas s'en débarrasser? C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils pensent que parce que leur église sont devenus intellectuels, qu'ils ont les gens les mieux vêtus, les plus grandes organisations et les ministres les plus intelligents, ils n'ont que faire quoi faire du Saint-Esprit tel qu'il se manifestait autrefois. Ils sont pleins. En d'autres termes, les actions parlent plus que les paroles. Ils sont sûrs qu'avec leur séminaire, leur cerveau, leur colloque et leur pensée intellectuelle, ils sont plus capables que le Saint-Esprit de mettre l'Église en ordre. C'est pourquoi ils n'en ont plus besoin. C'est quelque chose dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui. Ils disent, ce temps-là est passé. N'est-ce pas vrai? Nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit pour guérir la malade. Nous avons les médecins. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour parler en langue. Nous sommes assez intelligents. En faisant ainsi, nous sortons de notre position dans l'édifice. Nous nous écartons de la ligne de vie. Jésus disait aux Juifs, « N'avez-vous pas lu que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, celle sur laquelle toute la maison s'appuie? » Comprenez-vous ce que je veux dire? J'en suis sûr. La raison pour laquelle ils font cela aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ces choses. Nous n'avons pas besoin de gens qui parlent en langue. Nous n'avons pas besoin de gens qui interprètent les langues. Nous n'avons plus besoin des prophètes de l'Ancien Testament pour mettre notre vie en ordre par le Saint-Esprit. Nous avons la compréhension de ces choses. Vous voyez, ils ont adopté un système fait de main d'homme pour prendre la place du Saint-Esprit. Pourtant, il y a des gens qui sont élus, dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ceux-ci ne peuvent se contenter de cela, ayant la pensée spirituelle. Ils ne peuvent pas marcher dans ces choses-là. Ils ne peuvent les supporter. Peu importe si leurs parents ont vécu dans une organisation ou une église, peu importe qu'ils ne disent pas grand-chose. Oh non, ils ne disent rien, mais ce sont leurs actions qui rendent témoignage. Il est la parole. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il peut les réunir, le prouve au milieu d'eux en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en parlant en langue et en chassant les démons. C'est pourquoi tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Madame Argenbund pensait la même chose l'autre jour quand elle était accroupie dans l'allée en train d'arracher quelques mauvaises herbes. Elle tondait le gazon. Je suis passé à côté d'elle sans qu'elle me voie. Je l'ai observée sans l'interrompre. Soyez attentifs maintenant au Saint-Esprit et à son œuvre glorieuse. L'Église a l'impression qu'elle n'a pas besoin du Saint-Esprit. Les Églises vous le diront. Les hommes peuvent vous débiter des discours tellement intellectuels que vous y croiriez presque. Mais arrêtons-nous un moment pour réfléchir. Jésus n'a-t-il pas dit que les deux esprits deviendraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus si c'était possible? La prédication intellectuelle deviendra si convaincante qu'elle pourra séduire les gens. C'est l'Évangile qui le dit. L'homme en viendra à pouvoir manipuler la parole de telle manière que presque n'importe quelle personne intellectuelle, si elle se fie à son intelligence, condamnera le Saint-Esprit et prendra la manière de l'homme. Nous le voyons. C'est exactement ce qu'ils ont pensé de Joseph. Ils se débarrassèrent de lui. Et quand il fut en Égypte, oh, quand je pense à cela, on pourrait rester sur ce sujet pendant 3 ans, jour et nuit, et trouver encore et encore des pépites du Saint-Esprit. La pensée spirituelle peut regarder vers l'Égypte et voir la persécution augmenter. Elle peut voir Joseph se faire enlever afin que la persécution puisse avoir lieu. Et ensuite, voir Dieu avec sa roue au milieu de la roue, tout se mouvant d'une façon parfaite. Voyez comment Potiphar a rejeté Joseph. Voyez ce mensonge qui a été dit. Et voyez Joseph dans la prison et sa barbe qui a eu tant de pousser. Excommunié du milieu de ses frères. Mais soudainement, Dieu est entré en scène. Voyez? Nous pouvons voir ses roues au milieu de la roue. Ce glorieux plan de Dieu conduisant toutes choses vers la réalisation de cet exode, préparant tout pour le jour où il appellerait son peuple à retourner dans son pays, dans sa position là où il pourrait le bénir et placer au milieu d'eux celui qu'il avait promis d'y placer. Mais il fallait qu'ils soient dans leur pays. Rappelez-vous bien ceci, il fallait qu'ils sortent du pays dans lequel ils étaient et qu'ils entrent dans le pays de la promesse avant que le Messie promis puisse venir. L'Église doit faire la même chose. Elle doit sortir du milieu de ceux qui rejettent et entrer dans la promesse avant que le Messie puisse se manifester devant elle. Comprenez-vous ces choses? La vie du Messie manifestée prépare une église, une épouse. Si un homme et une femme se marient, mais sont en désaccord, ce sont des disputes continuelles. Mais si un homme et une femme s'aiment et qu'ils se marient, ils sont en parfaite harmonie. Ils sont un cœur et une âme parce qu'ils doivent être une seule chair. C'est la même chose lorsque l'Église peut entrer dans une harmonie avec Dieu, telle que l'époux est manifesté dans l'épouse, car ils doivent devenir un. Quelle glorieuse leçon! Vous voyez, La pensée spirituelle peut reconnaître que le type et la réalité sont une seule et même chose. Nous pourrions parler des heures sur ce sujet. Voyez ce qui est en train de se produire? Alors, pourquoi avons-nous dû attendre des années cette oasis dans le temps? La Bible nous dit que l'Église s'enfuit dans le désert où elle fut nourrie pendant un certain temps. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Vous voyez, ce sont les roues au milieu des roues du plan de Dieu. Pourquoi cela ne s'est-il pas passé il y a longtemps déjà lorsque les hommes et les femmes se sont mis à sortir leurs crayons et leurs papiers pour essayer de calculer les temps? Il y a eu le juge Rutherford et beaucoup d'autres qui dirent que Jésus reviendra en 1914, Hugh Mother Shipton, bien avant lui, et tous les autres qui, en essayant de faire des calculs sur la base de l'Écriture, la rendirent vaine en ce qui les concerne. Ces choses... Ces choses sont cachées, réellement cachées. Et comment l'Écriture pourrait-elle parler contre elle-même alors que Jésus dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Voyez, ils ne prennent qu'un fragment de l'Écriture et s'accrochent à cela. Mais vous devez prendre l'Écriture tout entière. Si Dieu est dans cela, Dieu manifestera que c'est la vérité. C'est comme la guérison divine. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Dieu n'aura rien à voir avec tout cela. Mais il la manifeste comme étant la vérité, alors c'est la vérité. Comment Jésus, Dieu, a dit, « S'il y a parmi vous un prophète ou quelqu'un de spirituel, je lui parlerai. » Et c'est ce que je dis, ce qu'il dit arrive, écoutez-le. Tout est là. Mais si la prophétie est fausse, ce n'est pas Dieu qui s'est trompé. Il est infini, infaillible, omnipotent. Et il ne peut se tromper. C'est pourquoi si un homme parle, il montre ce qu'il est. S'il parle de son propre chef, cela n'arrivera pas. Mais s'il exprime les paroles de Dieu, cela ne peut pas manquer d'arriver parce que c'est Dieu qui parle. Son inspiration vient de Dieu et elle ne peut être que juste. C'est ainsi que Dieu nous a dit de parler. C'est la manière de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, s'ils ne parlent pas conformément à la loi et aux prophètes, c'est parce qu'il n'y a pas de vie en eux. C'est vrai, il n'y a pas de vie en lui. Il faut qu'ils parlent conformément à la loi et aux prophètes. Et que ce soit la prophétie et autre chose, tout doit être conforme à la parole. Sinon, c'est faux. Nous voyons que tout cela est arrivé parce que les luthériens, les baptistes, les campbellistes et tous les autres ont eu de grands réveils. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes ont eu de grands réveils, mais le grand exode ne s'est pas produit. Pourquoi? Dieu dit à Abraham qu'il donnait le pays à sa postérité, mais que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Dieu a attendu patiemment. Les gens essaient de faire des calculs. Ils voient que l'Écriture annonce des événements et disent « Cela se passera à tel et tel moment », mais ils ne comprennent pas que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ils devaient rester 400 ans en Égypte avant d'être délivrés, mais ils restèrent en réalité 440 ans hors de leur pays parce qu'ils avaient rejeté le prophète. Ils durent souffrir 40 ans de plus dans le désert avant que Dieu les délivre. Moïse dut rester 40 ans dans le désert avant de retourner les délivrer. 40 années supplémentaires durent s'écouler parce qu'ils avaient rejeté le message. Maintenant, dans le temps de Dieu, 40 ans correspond à environ une demi-minute de notre temps. 6000 ans représentent un jour, 40 ans ne font pas même une minute, pensez-y. Nous sommes en retard. Pourquoi? À cause de la longanimité de Dieu qui attend et observe. Il a suscité le réveil des luthériens, mais ceux-ci se sont organisés. Il a suscité le réveil des méthodistes, mais ceux-ci se sont organisés. Avec John Smith de l'Église baptiste, il a suscité un grand réveil, mais ils se sont organisés. Il a suscité le réveil de Pentecôte avec la restauration des dons, mais ils se sont organisés. Cela arrivera jusqu'à ce que l'iniquité arrive à son comble. Alors Dieu en aura assez. Alors il y aura un exode. Et nous le verrons. Les gens pourront voir eux-mêmes, en remontant le cours du temps, qu'il y a une malédiction. Ils prennent de nouveau un lingot d'or et un beau manteau de Babylone. Voilà ce qui fait tomber la malédiction sur le peuple. C'est lorsqu'un homme essaie d'introduire ses propres idées. Nous devons rester dans la parole. Le commandement de Dieu était qu'il ne fallait rien toucher dans cette ville maudite. Ne touchez à rien. Laissez ces choses tranquilles. Achan pensa qu'il pouvait prendre ce lingot d'or et ce manteau babylonien et vivre tranquillement comme le reste du monde. Oh, tous ces Achans qu'il y a dans le camp! Mais ces objets sont maudits et restent maudits. La malédiction est entrée dans le camp depuis le concile de Nicée. Elle y est restée depuis lors, mais Dieu laisse l'iniquité des Amoréens arriver à son comble. Maintenant, si vous avez la compréhension spirituelle, vous remarquerez que je parle tout le temps de la compréhension spirituelle. Vous pouvez voir que l'iniquité de cette nation est arrivée à son comble. Elle s'est organisée, 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 réorganisée, et maintenant elle s'associe à se joindre à quelque chose d'autre. L'iniquité est arrivée à son comble. C'est le moment de l'Exode. C'est le moment de partir pour la terre promise. Non pas la promesse d'aller simplement dans un autre pays, mais à la maison, dans le millénium. C'est le moment de sortir de l'iniquité de cette nation. J'insisterai particulièrement là-dessus ce soir, si le Seigneur le veut. L'iniquité est arrivée à son comble. Elle est souillée. Vous me direz, Frère Branham, est-ce ainsi que vous parlez de votre nation? Parfaitement. En tant que citoyen des États-Unis, vous ne devriez pas dire cela. Alors Élie n'aurait pas dû appeler la malédiction sur Israël, lui qui était israélite. Les autres prophètes n'auraient pas dû non plus prononcer de malédiction sur Israël étant citoyen de ce pays. Mais ce qu'ils exprimaient, ce n'était pas leur propre pensée, mais la parole du Seigneur. Tout dépend d'où vous tirez votre inspiration. Cela dépend d'où cela vient. Si c'est contraire à la parole, laissez-le. Et je défie qui que ce soit de prouver que ce que je dis est contraire à la parole. C'est dans l'Apocalypse 13 que cette nation apparaît. Le nombre de cette nation est 13, la nation de la femme. Dans la Bible, il est parlé d'une femme. Une femme est représentée sur notre monnaie. C'est la nation de la femme. C'est là que la pourriture de la femme a commencé. C'est là qu'elle arrive à son achèvement. La pourriture a commencé en Éden par l'incrédulité en la parole de Dieu. C'est là que les femmes et les prédicateurs et tout le reste ont commencé. La pourriture du monde jaillit de Hollywood, qui est le pire endroit de la terre. Il y en a en Amérique plus de divorces que dans le reste du monde pris dans son ensemble. Voyez? Pourquoi cela? Vous la découvrirez un séjour si le Seigneur le veut. Vous verrez pourquoi il y a cette malédiction. Vous pourrez voir dans la question du divorce, Satan a aveuglé les yeux du monde. Nous sommes dans une heure épouvantable. Je crois que la fin est presque là. La femme est pourrie jusqu'au la moelle. Elle apparaît dans Apocalypse 13. Rappelez-vous qu'elle s'est élevée comme un agneau. Liberté de religion. Mais elle a reçu la puissance de la bête et lui fit une image. Et elle parle avec autorité et fait toutes les méchantes choses que fit la bête avant elle. Vous voudrez que ce n'est pas une prophétie pour cette nation? Le péché des Amoréens est pratiquement à son comble, puisqu'ils agissent déjà ainsi. Le but de chaque nouveau pape est d'unir les frères. Pour la pensée naturelle, c'est bien ce qu'il faut faire. Mais aux yeux de Dieu, c'est contraire au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous associer à ces choses, mais chaque Église sera prise dans cette confédération. Sortez de cela aussi vite que vous le pouvez. Autrement, vous recevrez la marque de la bête, sans même le savoir. Sortez de cela. J'espère que ceux qui ont la pensée spirituelle comprendront cela. Je suis sûr qu'ils le comprendront. Mais pour les autres, je me demande. De toute manière, si vous ne pouvez pas aller dans tous les pays, vous pouvez envoyer les bandes. Dieu trouvera bien le moyen de toucher ceux qui ont la pensée spirituelle là où cette semence est semée. C'est vrai, et aussitôt que la lumière frappe cette semence, elle prend vie. Comme la femme au puits, elle dit, c'est vrai. et elle reçut la lumière. Sortez de ces choses maudites, montrez-moi un de ces mouvements qui ne soit pas tombé après avoir pris naissance. Montrez-moi un de ces mouvements qui ne soit relevé après s'être tombé. C'est pourquoi, vous voyez, vous pouvez voir comment tout cela est dans l'erreur. Du temps d'Israël, l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. C'est pourquoi Israël dut attendre l'Exode un certain temps. Mais lorsque l'iniquité des Amoréens fut à son comble, il y eut un exode naturel qui conduisit le peuple dans un pays naturel qui était celui où les Amoréens naturels avaient habité. C'était leur pays. L'iniquité de la dénomination amoréenne qui s'est donnée si longtemps le nom d'Église est bientôt à son comble. Il y a un exode qui va se produire où Dieu manifestera son peuple, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Celle-ci partira en exode vers la terre promise. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour y entrer. Tout est déjà préparé. Si ce tabernacle terrestre doit être dissous, il y en a un autre qui nous attend. Là où je suis, vous serez aussi. Le grand exode est proche. Voyez comment Dieu a fait cet exode, quelle préparation il a faite, et comparons avec aujourd'hui. Remarquez, d'abord qu'avant cet exode, il s'éleva un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Que représente Joseph? La partie spirituelle d'un exode spirituel. Jusque-là, il y avait la liberté. Rappelez-vous que la femme a été nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais pour finir, un pharaon vint au pouvoir, un dictateur qui ne connaissait pas la liberté de religion. Il est venu pour les unir tous ensemble. Prenez garde à cela. Il fallait que vienne un tel pharaon et les organisations ont vécu dans l'abondance. Elles ont vécu comme un sarment greffé dans la vraie vigne de la chrétienté, mais portant néanmoins ses propres fruits. Femmes à moitié vêtues, hommes intellectuels et régnant la puissance de l'esprit, tous ont vécu sous le nom de l'Église chrétienne, mais ce n'est qu'une branche greffée. Le vigneron va bientôt venir tailler cette vigne, comme il a dit qu'il le ferait. Et tous ceux qui ne porteront pas de fruits seront retranchés, jetés dans le feu et consumés. C'est terrible à dire, mais la vérité est quelquefois terrible. Cela nous montre simplement comment Dieu prendra ses enfants au travers des eaux profondes, des sables mouvants et de toutes ces choses. C'est ainsi qu'il agit. Rappelez-vous que le vase doit être brisé en tout petits morceaux avant d'être remodelé. C'est une chose terrible que de le détruire ainsi, mais il faut le faire afin qu'il puisse être remodelé. Il vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ce fut le commencement du commencement. Ce fut le commencement de l'Exode. Et lorsque cela commença à prendre la forme d'une puissance politique, Dieu commença à se préparer. L'iniquité des Amoréens arriva à son comble. Le temps où devait s'accomplir la promesse faite à Abraham était arrivé. Le temps de la délivrance était proche. Dieu permit que vint au pouvoir un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est alors que naquit Ramsès. Juste après Séti, vint Ramsès, et Ramsès était celui qui ne connaissait pas les bénédictions de Joseph. Il ne connaissait rien aux choses spirituelles. Il n'était qu'un génie de la politique. Il pouvait prendre l'Éthiopie et le reste des nations sous sa puissance militaire, mais tout ce qu'il connaissait, c'était la puissance des armes.
And
Si un homme est spirituel, il peut voir ce qui est en train de se passer maintenant. Nous avons un pharaon qui ne connaît pas la liberté de religion. Lorsque notre président a pris son poste, il ne voulait pas prêter serment sur ce point-là parce qu'il ne croit pas à la liberté de religion. Que s'est-il passé l'autre jour quand vous posez cette question sur la ségrégation raciale dans le Sud? Lorsque le gouverneur de l'Alabama, j'aimerais pouvoir parler à ce ministre, Martin Luther King. Comment cet homme peut-il, en tant que chef, conduire son peuple dans un piège mortel? Si ces gens étaient des esclaves, j'irais là-bas et je me battrais pour eux. Mais ce ne sont pas des esclaves, ce sont des citoyens de ce pays. En ce qui concerne les écoles, si les gens ont le cœur dur et ne comprennent rien à ces choses, vous ne pouvez pas les conduire de force dans les choses spirituelles. Il s'agit là d'une question politique. Il faut qu'ils acceptent cela et naissent de nouveau. Alors, ils comprendront ces choses. Si seulement je pouvais parler à cet homme, au nom de la religion, il conduit ces braves gens vers un piège mortel et sera la cause de la mort de milliers de personnes. Mais il ne voit que l'aspect naturel de ces choses. Ce frère de couleur, c'était en Louisiane lorsque ce soulèvement, il y avait là un prédicateur de couleur, un cher frère. Il se leva et demanda à la milice, « Puis-je leur parler? Ce sont les gens de ma race. » Alors ce vieux prédicateur se leva et dit, « Jusqu'à ce matin, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. C'est mon Créateur qui m'a fait ainsi. C'est ainsi qu'il désire que nous restions. » C'est ainsi qu'il demande que chaque homme reste. Il a fait des fleurs blanches, des fleurs bleues, des fleurs de toutes les couleurs. Ne les croisez pas. Vous iriez contre la nature. Cet homme dit, jusqu'à ce matin, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Mais quand je vois mon peuple se soulever et faire les choses qu'il fait maintenant, j'ai honte pour lui. J'ai pensé que Dieu bénisse cet homme. Il a dit, « Vous ne faites que causer du trouble. Regardez nos écoles. Si nous n'avions pas d'école, ce serait différent. Mais qu'il y a des meilleures écoles de toute la Louisiane. Prenons par exemple notre ville Chèvreport. Il y a là l'école des Blancs. C'est une vieille école. Ils en ont construit une autre. Ils n'ont aucun jeu pour les enfants alors que notre préau en a plein. En plus de cela, ils ont construit une grande piscine de marbre pour nos enfants et nous avons les meilleurs professeurs que l'on puisse trouver. » Pourquoi voulez-vous aller chez eux alors que nous avons tout chez nous et en mieux? Qu'est-ce qui vous prend? Les gens disent, ils finissent par se taire. Voilà. Voyez? C'est une fausse inspiration. Autrefois, ces gens étaient des esclaves. Mais ce sont mes frères et mes sœurs. S'ils étaient encore dans l'esclavage, je dirais, joignons-nous à deux, descendons dans la rue et protestons. Mais ils ne sont pas esclaves. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits que n'importe qui. Tout cela ne vient que d'une mauvaise inspiration issue de l'enfer dans le but de causer la mort de millions de ces gens. Ils vont faire une révolution, c'est certain. Mais ce n'est pas juste. Les hommes et les femmes ont leurs droits. Que nos frères soient nous, jaunes, comme les Japonais ou de toute autre couleur, cela ne fait aucune différence devant Dieu. Nous sommes tous les descendants d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés, donné différentes couleurs, restons ainsi. Si j'étais jaune, j'aimerais rester chinois ou japonais. Si j'étais de couleur, j'aimerais rester de couleur, puisque Dieu m'a fait ainsi. D'ailleurs, dans la race noire, il y a bien des caractères que la race blanche pourrait envier. Ils ne se tracassent pas comme nous. Ils sont plus spirituels. Ils ont mille et une petites choses que nous n'aurons jamais. C'est Dieu qui les a fait ainsi. Qui pourra jamais chanter aussi bien qu'un cœur de noir? Où trouverons-nous des voix pareilles? J'ai vu de ces hommes venir au du fond de la brousse, ne sachant distinguer leur droite de leur gauche. Il y en avait 30 ou 40 tribus. Mais lorsqu'ils se mirent à chanter, les chanteurs professionnels dirent, « Nous ne pourrons jamais chanter comme cela. » Ils font travailler les chœurs pendant des années pour leur faire maîtriser le haut et le bas de l'octave. Mais quand ils entendent chanter ces gens primitifs, ils disent, « Écoutez-moi cela. » Ils chantent à la perfection, dans différentes langues. Ils sont doués. Mais vous voyez, tout cela doit arriver. C'est à cause d'un politicien que vous avez élu avec vos machines à voter trafiquées. L'autre jour, il y avait le gouverneur, lui, qui a été élu et assermenté dans cette fonction par le peuple. On parla de l'aspect constitutionnel. La Constitution dit que chaque État peut agir selon ses propres vues. Cela lui importait peu, mais il lut la Constitution puis il déclara « L'école désire la ségrégation ». Alors, ils construisirent une école là-bas. Seuls deux élèves de couleur voulurent y aller. Les Noirs avaient déjà leur propre collège. Mais le gouverneur s'était contenté de lire la Constitution. Ces gens ne connaissent pas Joseph, la liberté. Ils font les votations entre les gens de couleur, méconnaissant le fait que c'est le Parti républicain qui les a libérés. Ils vendent leur droit d'aînesse à quelque chose qui les conduit à un piège mortel. C'est pour manifester que tout système humain doit tomber. C'est l'exacte vérité. Et le président Kennedy, nationalisant cette garde, les a envoyés combattre leur propre père au nom d'une constitution qui viole elle-même cette constitution. Et ce prédicateur dit, nous ne voulons pas combattre. J'espère que cette nation finira par découvrir que nous ne vivons plus dans une démocratie, mais sous une dictature militaire. Vous connaissez le vieux dicton, celui qui est né démocrate du Sud mourra démocrate du Sud. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il se trouvera sûrement un homme assez sensé pour s'éveiller à quelque chose. Laissez ces braves gens tranquilles. Ne les tuez pas comme cet homme qui a tué ce frère d'un coup de pistolet dans le dos l'autre soir, alors que ses petits-enfants et sa femme l'attendaient à la maison. Peu importe qui est cet homme, c'est une action basse et mesquine, parfaitement. J'aimerais être le juge dans ce cas que tuer un homme qui rentre à la maison vers sa femme et ses enfants. C'est un citoyen. Il a le droit de soutenir la cause qu'il doit croire être la bonne. C'était un brave homme. J'ai vu la photo dans le live. On voyait ce petit garçon pleurant la mort de son papa, dire qu'un renégat quelconque l'a frappé par derrière dans un guet-apens. C'est à cela qu'on arrive quand on rejette Christ. C'est vrai. C'est vers cela que la nation tout entière se dirige avec sa politique. C'est une honte, mais nous l'avons voulu. Nous l'avons prouvé dans ces élections. Ce matin, mon fils m'a demandé, « Papa, ces pèlerins, lorsqu'ils arrivaient ici, est-ce qu'ils appartenaient tous à telle et telle dénomination? Ils avaient tous ces longs vêtements? » Je lui ai répondu, « Non, mon chéri, ils sont venus ici pour avoir la liberté de religion. C'est justement pour sortir de ces choses-là qu'ils sont venus. » Voyez où nous en sommes aujourd'hui? Cela nous montre bien que tous ces royaumes doivent tomber. Il faut que je me dépêche. Il y a une chose pour laquelle je prie, c'est pour que le frère Martin Luther King se réveille un jour. Il aime son peuple, cela ne fait aucun doute. Mais s'il pouvait seulement discerner ce qui l'inspire, à quoi sera-t-il d'aller dans une certaine école si pour en arriver là, il faut que des millions de morts? Est-ce que ça ne serait pas de toute manière aller à l'école? Si c'était une question de nourriture ou d'esclavage, cet homme serait un martyr s'il donnait sa vie pour une telle cause parce que ce serait une cause qui en vaudrait la peine. Mais pour une simple question d'école, je ne comprends pas. Je ne pense pas que le Saint-Esprit soit du tout d'accord avec lui dans tout cela. C'est tout un battage qui se fait pour soulever le peuple, exactement comme Hitler fit en Allemagne. C'est ainsi qu'il fit tomber son peuple dans un piège mortel, et les cadavres de ses chers Allemands se sont empilés par millions. Maintenant, c'est exactement la même chose, et rappelez-vous, ce que je dis, c'est enregistré. Peut-être que vous verrez ces choses arriver après mon départ. C'est exactement ce qui va arriver. Ces pauvres gens vont mourir comme des mouches. Il y aura une révolution. Les Noirs et les Blancs se battront. Ils mourront comme des mouches. Et qu'aurons-nous plus quand tout sera terminé? Un tas de cadavres. Sur le trône monta un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Aujourd'hui, c'est la même chose. Un homme a prêté serment à la Maison-Blanche, mais il n'a pas voulu prêter serment au sujet de la liberté de religion. Que dit le nouveau pape? Quatre choses. L'une d'elles est qu'il veut unir catholiques et protestants. Pour l'homme intellectuel, c'est la chose à faire. Pourtant, la Bible dit que ce n'est pas la chose à faire, mais elle dit que c'est pourtant ce qu'il ferait. Maintenant, avançons encore un peu. En ce temps-là, la puissance de Ramsès s'accrut en Égypte. L'homme naturel, Ramsès, prenait de l'importance. Aujourd'hui, l'homme naturel, l'Antichrist, prend de l'importance par le canal de la politique. Il est déjà entré à la Maison-Blanche. Pour ce qui concerne la religion, il a tellement séduit les gens qu'ils n'ont rien pu faire d'autre que de tomber dans le piège. Pour ce qui est de ces grands leaders dénominationnels, pratiquement toutes les églises de ce pays font déjà partie de la Confédération des églises. Ramsès est en train de croire. Tous s'unissent. Et c'est exactement ce qu'il devait faire. Et qu'est-ce que cela produit? Une puissance, une bête exactement semblable à la première. Il y a une persécution avec un bocoletage qui vont tomber sur tous ceux qui ne voudront pas entrer dans cette union. Mais alors, ce sera trop tard. Vous aurez déjà pris la marque de la bête. Ne dites pas, je ne le ferai plus tard. Faites-le maintenant. Ramsès est en train de croître. Mais rappelez-vous que tandis que la puissance de Ramsès croissait en Égypte, Dieu avait Moïse dans le désert. Lui aussi était en train de croître. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel par le moyen d'un prophète qui viendrait parler au peuple. Aujourd'hui, ils sont aussi en train de croire tous les deux. Un seul jour, il y aura une confrontation. Le temps est proche où il viendra une confrontation. L'Écriture nous montre que le naturel est le type du spirituel. On ne peut pas en sortir. Tout est présenté bien en évidence devant nos yeux. C'est la vérité. Considérez l'Église actuelle, son appel, la puissance dont elle est peu à peu revêtue. Le Saint-Esprit descend, les mystères de Dieu sont révélés et mis en ordre. L'Église est entrée maintenant à la maison de l'ange. Mais la vraie Église est en train de se ressaisir. Elle n'est pas une dénomination. Mais elle est sortie des liens de l'iniquité. Elle est sortie du pays des Amoréens. C'est un peuple libre. Dieu avait déjà suscité son futur prophète, Moïse. Mais bien qu'il eût déjà prophétisé et que sa prophétie eût été confirmée, il fut envoyé dans l'école du désert et caché du reste du monde. Mais il reçut une formation pendant qu'il était dans le désert. L'ennemi proposera toujours son système et les incrédules l'accepteront. Parce que le signe de l'ennemi, c'est l'intellectualisme. Rappelez-vous ceci, et n'oubliez jamais, il n'y a que deux puissances. L'une est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre, la puissance du diable agissant par la pensée intellectuelle. C'est ainsi qu'il est entré dans le Jardin d'Éden par la puissance intellectuelle afin de faire croire Ève à une conception intellectuelle contraire à la parole. C'est d'une évidence telle que même les enfants peuvent le comprendre. Et cela a toujours été ainsi. Nous le voyons ce matin avec l'Égypte. Il y avait une puissance intellectuelle agissant en Ramsès, l'élevant, et lui donnant une puissance, mais il ne connaissait pas la liberté, il ne savait pas ce que Joseph avait fait, ce que l'Église avait fait au commencement. Aujourd'hui, nous voyons la même chose se passer. La puissance intellectuelle s'introduisant dans l'Église, s'élevant jusqu'en devenir la tête, ne se souciant pas de ce que dit la Bible. Ils ont leur propre système. Ce n'est plus ce que la Bible dit, c'est ce que l'Église dit. Les protestants se sont intégrés dans ce système jusqu'au plus petit groupe. Ils disent, je sais que la Bible dit cela, mais ces temps sont révolus. Ils ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Chaque passage de l'Écriture nous le montre. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais enregistrer cette prédication et la diffuser? L'heure est arrivée. La vérité doit être connue. L'Exode est proche. Vous voyez, l'aspect intellectuel des choses a l'air parfait. Il est parfait. Il est l'inspiration parfaite de Satan. Pendant tout le temps que Ramsès l'intellectuel croissait et se préparait à monter sur le trône, rappelez-vous qu'il fut élevé comme un frère de Moïse. L'un d'eux devait monter sur le trône intellectuel comme cela s'était passé auparavant avec Joseph et ses frères. Et qu'est-ce que les frères de Joseph firent de lui? Ils l'excommunièrent de la parole. Et la parole est Dieu. Ils ont excommunié la parole et accepté un credo. Et le credo devint une puissance. Oh mon Dieu, fais que les gens comprennent cela. Que puis-je dire de plus avec ma voix? Comment puis-je dire les choses plus clairement par les Écritures et sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous sommes dans la même situation? Mais vous direz, si ces choses venaient du pape Jean, du pape un tel, de l'évêque tel et tel, voyez-vous comment Dieu prit un insignifiant petit homme du désert? Vous dites, comment tout cela peut-il être faux? Mais Dieu traite avec les personnes et non pas avec les groupes. Il traite avec les personnes. La seule chose qu'il veut, c'est un homme avec lequel il puisse agir. Voilà tout ce qu'il veut, un homme. Dans chaque âge, il a essayé de trouver un homme. Il en a trouvé un du temps de Noé. Il en a trouvé un du temps d'Élie. Il en a trouvé un du temps de Jean-Baptiste. Un homme, c'est tout ce qu'il lui faut. Du temps des juges, il essayait de trouver un homme. C'était Samson. Il donna une grande puissance à Samson, mais celui-ci l'a vendu à une femme. Il l'a rendu aveugle. Ce n'étaient pas les hommes qui étaient juges, c'était Dieu. Aujourd'hui encore, il essaie de trouver un homme. S'il peut mettre la main dessus, un homme qui dira la vérité sans crainte, qui ne mâchera pas ses mots, qui ne sera pas dogmatique. Un homme qu'il puisse tenir dans sa main et par lequel il puisse manifester sa parole vivante et montrer que lui-même est vivant. Je crois qu'il peut préparer une telle personne, je le crois. Je crois suffisamment à la Bible pour croire cela. S'il peut trouver un tel homme, celui-ci dira la vérité. Après avoir passé par toutes ces écoles, vous voyez, l'ennemi propose quelque chose à la pensée intellectuelle parce que l'ennemi travaille avec l'intellect. Alors, on s'arrête, on se met à raisonner et on dit, est-ce qu'au concile, il ne s'est pas passé? L'autre jour, je parlais avec un vrai homme qui travaille dans une administration. Il m'a dit, Billy, je voudrais vous poser une question. Vous êtes Irlandais? Je lui ai répondu, parfaitement. Je suis bien un peu gêné de l'aide, mais tout de même, je le suis. Il me dit, alors, vous savez, en réalité, vous devriez être catholique. Je lui ai répliqué, eh bien, je suis un véritable catholique originel. Vous savez que la première église était l'église catholique. Mais vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle a commencé le jour de la Pentecôte, mais l'organisation en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez l'église pentecôtiste. Elle est revenue au commencement, mais elle s'est organisée. Elle faisait les mêmes choses qui faisait l'église catholique du début. Mais aujourd'hui, 50 ans, l'organisation a mené l'église pentecôtiste presque au même point que les 2000 ans du catholicisme. Cet homme me dit, ne pensez-vous pas que lorsqu'un groupe d'hommes à l'esprit œcuménique se rassemble, nous y voilà, pour discuter de quelque chose et que le groupe tout entier est d'accord, ne pensez-vous pas qu'ils ont quand même un peu plus, je suis venu vous entendre prêcher, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui dis, la seule manière pour vous de prouver que votre désaccord est logique est de prouver par la Bible. Il me rétorqua, la Bible n'a rien à voir avec cela. Je lui répondis, pour vous peut-être, mais pour moi, elle a tout y à y voir. Vous comprenez, c'est la parole. Il me dit, ne pensez-vous pas qu'un groupe d'hommes à l'esprit œcuménique a plus de chances d'avoir raison qu'un pauvre petit ignorant comme vous? Il me dit encore, de toute manière, en quoi est-ce que votre affaire de dire quoi que ce soit contre notre Église? Dans le premier âge de l'Église, vous nous avez parlé du Concile œcuménique de Nicée où a été fondée l'Église catholique romaine. Ne savez-vous pas qu'il y avait là des milliers d'hommes remplis de l'Esprit, des hommes envoyés par Dieu à ce concile? Ne pensez-vous pas que leur esprit était plus apte à connaître la volonté de Dieu que le vôtre? Après que Dieu a confirmé pendant 2000 ans que cette Église qui a raison, je lui ai répondu, Dieu ne l'a jamais prouvé. Si cette Église est l'Église de Dieu, qu'elle nous montre les œuvres qu'elle a accomplies la première Église, qu'elle nous montre aujourd'hui les choses qu'elle a faites au commencement. La Bible elle-même nous dit que par un trait de lettre de la loi ne passerait avant que tout soit accompli. Elle dit aussi que quiconque ajouterait ou retrancherait un seul mot à la parole serait retranché, que ce soit un membre ou conseil œcuménique ou quoi que ce soit d'autre. C'en est fait de lui. Il m'a dit, Billy, vous déraillez. Il lui a répondu, autrefois, lorsqu'Israël était un grand peuple, ils se préparèrent comme l'ont fait les catholiques et les protestants plus tard. Israël voulait rester Israël. Mais plus tard, il y a eu en Juda un homme juste, Josaphat, qui essaya d'observer la loi de Dieu. En Israël, par contre, il y avait Akab, qui avait épousé par politique la fille du roi des Sidoniens, Jézabel, parce qu'il voulait faire alliance avec ce peuple. Il l'introduit dans le peuple de Dieu. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, là. C'est elle qui s'est mise à commander. C'est elle qui commandait à Akab de dire ceci ou cela. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Plus tard, il voulut réunir les deux peuples, comme aujourd'hui nous voulons réunir les deux églises. Et Akab, l'homme de l'organisation, dit à Josaphat, tu verras, ce sera très bien. Nous sommes un peuple, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des croyants. Mettons-nous tous ensemble. Mais lorsque la situation devint critique, la confrontation, Josaphat dit, ne penses-tu pas que nous devrions prier pour cela? Devrions consulter le Seigneur? Akab répondit, oui. Josaphat dit, je vais te dire ce qu'il faut faire. Cherchons un prophète du Seigneur. Mais voyez, Akab avait un système qu'il pensait être du Seigneur. Il a dit à Josaphat, j'ai 400 prophètes bien instruits et entraînés. Ce sont tous des prophètes hébreux, comme les groupes de ministères actuels. Ils les firent venir et leur demandèrent quelle serait l'issue de la bataille. Alors ces prophètes se réunirent exactement comme le fait le conseil œcuménique d'aujourd'hui et dirent, « Allez-y! Le Seigneur est avec vous, car le pays nous appartient de droit. Chassez les Syriens, car le pays nous appartient. » Cela avait l'air tout à fait raisonnable. Mais dans le cœur de Josaphat, cela ne sonnait pas tout à fait juste. Il a dit à Akab, « Je sais que tu as 400 prophètes bien instruits qui sont tous d'accord. » Ils étaient même fait des cornes de fer et avaient proclamé, « Ainsi dit le Seigneur, mais n'y en a-t-il pas un autre? » Le politicien dit que le roi ne parle pas ainsi, car ces hommes sont instruits, je les ai formés moi-même. Tout est là. Il y en a bien encore un, mais celui-là, je l'ai. Il ajouta, c'est Miché, le fils de Jimla. Mais je le hais. Ce n'est qu'un renégat. Il parle toujours contre moi. Il dit toujours que je fais le mal. Et pourtant, regarde mon royaume. Oui, regardons son royaume. Quel gâchis. Voyez vos dénominations aujourd'hui. Elles ont une forme de piété, mais renie ce qui en fait la force. Ce genre de prophète, vous pouvez en avoir encore des millions et des milliers. Des mieux instruits, si vous voulez, mais où en êtes-vous dans l'esprit? Où est votre force? Êtes-vous comme Samson? Ainsi que je l'ai montré l'autre jour, il était toujours aussi grand et bien charpenté, mais il n'y avait plus de vie en lui. L'esprit l'avait quitté. Maintenant, il était aveugle et sans force, et un petit enfant le conduisait, tout cela à cause d'une femme. L'Église est dans la même situation aujourd'hui. Elle est conduite par la politique, les évêques, les anciens et toutes sortes de choses pareilles. Chacun cherche au hasard un bénéfice quelconque. Où allons-nous ainsi? Nous avons vu qu'ils envoyèrent chercher Miché, le fils de Jimla, lorsqu'ils leur prophétisèrent qu'Akab serait tué s'il montait contre Ramoth en Galaad. Le chef des prophètes le frappa au visage. Il l'a fait en toute sincérité. Il lui a dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Tu le verras. Mettez Miché en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Alors je m'occuperai de lui. » Mais Miché savait qu'il était en ordre avec Dieu. Pourquoi? Parce que sa vision correspondait à la parole. Il était prophète et son esprit et sa vision correspondaient exactement avec ce qu'avait dit le prophète Élie. C'est pourquoi il a pu dire, Si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'a point parlé. Je dis à cet homme qui m'avait abordé, qui avait raison, un conseil œcuménique de 400 hommes élus par des hommes ou un seul petit renégat élu par Dieu? Il me répondit, comment peut-on le savoir? Je lui dis, en revenant au plan original, comment pourrait-on construire une maison sans un plan? Si ces prophètes s'étaient arrêtés un instant pour réfléchir et faire des recherches, ils auraient découvert qu'Élie avait maudit Ahab. Il avait dit que les chiens lécheraient son sang, ce qu'ils firent plus tard. Comment pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Comment pouvait-on bénir ce que Dieu a maudit? Sortez du milieu de ces choses. Venez en Christ. Maintenant, remarquez, mais l'ennemi fait des propositions. Mais la pensée intellectuelle dit que c'est juste. C'était la pensée de ce cher frère. Il disait, si nous nous réunissions tous en une seule église, ne pensez-vous pas que tout irait mieux que d'être dispersés comme nous le sommes maintenant? Cela ne semble-t-il pas raisonnable de penser que les protestants et les catholiques devraient chercher à se rassembler et à trouver un terrain d'entente? Mais comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Comment pouvez-vous mettre ensemble un groupe qui ne croit pas à la guérison divine, un groupe qui y croit, un autre qui dit que c'était pour autrefois et d'autres qui ne croient même pas à la Bible? Quel résultat sera peut-il donner? Dieu n'est pas un auteur de confusion. Avant que Dieu puisse mettre son Église en ordre, il dut attendre 10 jours et 10 nuits jusqu'à ce qu'elles soient tous d'un accord parfait. C'est alors que le Saint-Esprit a pu descendre et en prendre la tête. Ce n'était pas un quelconque conseil œcuménique, vous voyez? J'espère que vous comprenez cela. Remarquez que c'est l'incrédulité, celui qui est infidèle à la parole de Dieu, qui ne prend pas garde à ce que dit la parole, mais qui s'attache à ses propres raisonnements. C'est ce que fit Ève au commencement, elle se fia à ses raisonnements. Satan dit, réfléchis un peu, n'est-ce pas raisonnable? Je sais que la parole dit ceci, mais ce n'est pas raisonnable de penser qu'il vaudrait mieux pour vous savoir discerner entre le bien et le mal. Elle répondit, eh bien, je pense que oui. Et le prix du fruit, c'est la voie du raisonnement. L'incrédulité prendra toujours le chemin du raisonnement, mais la foi n'y touchera pas. N'aurait-il pas été raisonnable de la part de notre Père Abraham, le Père de notre foi, dont nous sommes les enfants de Christ, en Christ, de penser qu'il ne pouvait avoir d'enfant avec sa femme, une femme de 65 ans avec laquelle il avait vécu depuis son enfance, et lorsqu'elle dure 90, et lui 100 ans, et n'en avait toujours pas. Si un grand comité de savants et de médecins avait examiné Sarah, ils auraient déclaré « Sa matrice est desséchée et les glandes de sécrétion du lait sont taries depuis 40 ans. » Et d'ailleurs, à son âge, son cœur ne supporterait pas le travail d'un accouchement. Tout cela était très raisonnable, mais Abraham refusa de l'écouter. Il ne se laissa pas ébranler malgré les circonstances parce qu'il croyait Dieu capable d'accomplir tout ce qu'il disait. Mais où sont les enfants d'Abraham? Vous, les ministres qui avez peur de manquer d'eau et à manger, d'être jetés à la rue si vous quittez cette Babylone, où est votre foi? David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Ne craignez rien. Restez fidèles à Christ. » Mais l'incrédulité s'attache au raisonnement. Comprenez-vous cela? L'incrédulité se confie dans la raison. C'est quelque chose du temps présent. La foi ne fait pas cela. Elle regarde à la parole. Elle se place sur le rocher immuable, la parole éternelle de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas au raisonnement. Peu importe à quel point vous pouvez montrer que ce serait mieux de faire de telle ou telle manière, si la parole dit non, c'est là-dessus que la foi se base. C'est le sanctuaire de la foi, son lieu de repos. Ce matin, je voudrais vous poser une question à vous, les luthériens, les baptistes, les catholiques et à tous ceux qui appartiennent à une dénomination, quelle qu'elle soit, n'importe où dans le monde. Comment pouvez-vous mettre votre foi en votre dénomination lorsque ce qu'elle dit est contraire à la parole? Quelle sorte de foi avez-vous? Ce que vous avez, ce n'est pas la foi, mais la faculté de raisonner. Car la foi vient de ce qu'on entend dans un conseil œcuménique. Vous trouverez peut-être de telles choses dans un agenda d'anniversaire de vieille dame, mais pas dans la parole de Dieu. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Montrez-moi quelqu'un qui puisse dire quelque chose de contraire à cela et prétendre que c'est la parole de Dieu, alors qu'il est dit que les cieux et la terre passeront. Mais que cette parole ne passera pas. La foi trouve dans la parole son sanctuaire et son lieu de repos. Elle vient de se reposer sur ce rocher éternel, Jésus-Christ. La parole, elle s'appuie et se repose là. Que les vents hurlent, que la tempête fasse rage. Elle est en sécurité pour toujours. Elle s'appuie et se repose sur cette parole. C'est là où la foi, la véritable foi chrétienne, se repose. Le lieu de repos est la parole. Car elle sait que Dieu prouve toujours qu'il est supérieur à tous ses ennemis. Peu importe si la situation a l'air mauvaise, peu importe comment les ennemis viennent, même s'il semble que vous soyez vaincus, par la foi, vous savez que vous avez la victoire. Je dis cela pour vous, les malades, ô combien j'aimerais que cela pénètre bien en vous. Quand vous saisissez cette foi qui vous dit que vous serez guéri, rien, aucune circonstance, aucun signe, aucun symptôme qui vous indiquerait que vous allez mourir ne vous ébranlera. Son lieu de repos est dans le sanctuaire de la parole de Dieu lorsque la foi, la vraie foi s'installe là. Une foi authentique, pas une foi fabriquée, mais la foi, pas une espérance, la foi. L'espérance, c'est parce qu'on espère être dans ce sanctuaire. La foi, c'est parce qu'on y est déjà et qu'on observe les choses en disant, c'est fait. C'est cela. C'est là que la foi trouve son lieu de repos. Car elle sait que Dieu ne laissera jamais l'ennemi prendre le dessus. Jamais. Jamais. Il n'a jamais pu. La foi le sait. C'est pourquoi elle ne regarde pas aux apparences. Noé savait qu'un jour son arche flotterait, ce qu'elle fit. Daniel savait que Dieu pouvait fermer la gueule des lions. Les jeunes Hébreux savaient que Dieu pouvait éteindre la fournaise. Jésus savait que Dieu le ressusciterait, car la parole disait, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il savait que la corruption s'installe après 3 jours. Il dit aussi, « Dans 3 jours, je le relèverai. » Voyez, comme il fallait qu'ils trouvent leur lieu de repos éternel dans le sanctuaire de la parole de Dieu, c'est là qu'ils se trouvaient. Le raisonnement fera de son mieux pour reconnaître. Il dira, « Ce système est sûrement le meilleur. » C'est cela. Il a l'air d'être le meilleur parce que vous regardez les choses du point de vue intellectuel. Vous pouvez prouver les raisonnements, mais vous ne pouvez pas prouver la foi parce que si vous pouvez la prouver, ce n'est plus la foi. Mais la foi ne connaît que la parole et la promesse. Et elle regarde vers des choses que l'œil ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas raisonner. Je ne veux pas que vous prouviez que cela doit se passer comme ceci ou comme cela. Je ne sais pas comment cela se fera. Je ne le sais pas, mais je ne le crois. Je sais que c'est ainsi parce que Dieu l'a dit. Cela règle la question. C'est la raison pour laquelle je sais que c'est juste. Je sais que la parole est vraie. Je sais que ce message est vrai. Car il est dans la parole et je vois que le Dieu vivant se meut à travers d'elle et la confirme. Nous allons vers un exode, c'est certain. La mort elle-même ne peut ébranler la foi. Un homme peut se tenir face à la mort et proclamer la victoire de la résurrection. Paul a dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Parce que Christ est ressuscité et que ceux qui sont en Christ paraîtront avec lui à son avènement. La parole ne peut changer. Oui, la foi fait de la parole de Dieu son sanctuaire et son lieu d'éternel repos. Elle repose dans la parole de Dieu. Si cela ne vous fait rien, je voudrais encore parler un moment. Il nous reste environ 25 minutes et je voudrais finir d'enregistrer cette bande. Remarquez que ce nouveau roi ne connaissait pas Joseph. Quel fut son premier plan pour détruire la puissance d'Israël? Mettre à mort les enfants, n'est-ce pas vrai? Il essaya de détruire leurs enfants. Maintenant, écoutez attentivement. C'est le même démon sous une forme différente qui essaye de détruire le Fils unique de Dieu. Voyez? Il commence par détruire les enfants, arrêtant les choses avant même qu'ils aient pu sortir. Le diable est un gaillard vraiment rusé. Il sait comment frapper quelque chose avant même que cela ne commence. Il sait comment faire. Et si vous voulez le battre, il n'y a qu'un seul moyen, faire confiance à Christ, vous humilier, le laisser vous conduire. Vous n'y arriverez jamais autrement. Vous n'y arriverez jamais par votre puissance intellectuelle. Vous devez croire et lui faire simplement confiance. Il est le bon berger. Ce n'est pas l'affaire des brebis de garder le loup éloigné d'elle. C'est l'affaire du berger. Mais si elles veulent être en sécurité, les brebis doivent rester avec le berger. Ma zone de sécurité est en Christ et Christ est la parole. C'est la zone de sécurité. Remarquez comment le diable s'est manifesté dans la forme de Ramsès, le roi. La première chose qu'il a fait, se débarrasser des enfants par mort physique. Aussitôt que le Fils de Dieu fut né, il quitta l'Égypte parce que Dieu avait détruit l'Égypte. Il l'avait maudite, elle ne s'en est jamais relevée. Ensuite, on le retrouve à Rome. Satan avait déplacé son siège à Rome. Et quelle est la première chose que le système romain essaya de détruire? Le Fils de Dieu. C'est toujours le même démon. Aujourd'hui, c'est pareil. Il est venu sous la forme d'un esprit religieux qui se proclame chrétien. Mais qui entraîne nos filles à épouser des garçons catholiques et à leur faire élever leurs enfants dans le catholicisme afin de briser la puissance de l'autre partie. C'est toujours le même démon. C'est ce démon assis sur cette colline et portant une triple couronne. Il est aussi rusé, intelligent et intellectuel que le serpent. C'est la semence du serpent. Ce sont les enfants du serpent. Il utilise les mêmes techniques intellectuelles. Deux fois déjà, il a fait mourir les enfants. Comment a-t-il fait? Remarquez le nombre, deux, trois. Les deux premières fois, il a fait mourir les enfants de mort physique. Mais maintenant, il prend les enfants pour les faire mourir de mort spirituelle. Par le moyen des mariages mixtes. Daniel n'a-t-il pas prophétisé la même chose avec ce royaume de fer et d'argile, où il mélangerait les semences pour essayer de briser la puissance du peuple? N'est-ce pas exactement ce qui est en train d'arriver? Ils ont même réussi à introduire le président à eux. Ensuite, ils introduiront un cardinal et enfin, ils investiront tout le cabinet. Que ferez-vous alors? Ensuite, ils paieront la dette des États-Unis en empruntant l'argent à l'Église et alors vous serez vendus. Aujourd'hui, nous payons nos dettes à l'étranger avec l'argent des impôts qui seront payés dans 40 ans. Nous n'avons plus d'argent. C'est l'Église qui le possède. La Bible ne dit-elle pas qu'elle était couverte d'or? Il épouse vos filles, leurs filles épousent vos fils, et elles élèvent vos enfants dans le catholicisme et les font ainsi mourir de mort spirituelle. La Bible ne dit-elle pas qu'il la jetterait sur un lit de tribulation qu'il ferait mourir de mort ses enfants? Voyez, Apocalypse 17, c'est toujours la parole. Peu importe ce que vous direz, c'est toujours la parole. Il faut que cela corresponde, sinon ce n'est pas la parole. Si vous ne pouvez pas le faire correspondre avec la Bible d'un bout à l'autre, c'est faux. Remarquez que pendant ce temps, Dieu instruisait son serviteur pour qu'il puisse faire son œuvre. Il le formait hors de leur vue, de leur plan, de leur dessein. Comprenez-vous cela? Dieu préparait un homme pour accomplir son dessein. Il le préparait en dehors de leur système d'organisation. Il laissait faire les autres à leur guise. Il laissa Moïse prendre une femme et avoir un enfant, Gershom. Il vécut là une vie agréable et bénie. Mais pendant tout ce temps, Dieu le formait et le préparait. Ce que Dieu et son ennemi faisaient, chacun de son côté, dans les choses naturelles, physiques, ils le font chacun de son côté aujourd'hui. Dans les choses spirituelles. En ce temps-là, il fait mourir de mort physique, mais maintenant, il faut mourir de mort spirituelle. En ce temps-là, Dieu préparait un homme naturel, son prophète, à descendre en Égypte, et Satan préparait un Ramsès, un homme naturel. Il préparait un homme naturel. Pourquoi? Pour unir les Égyptiens et les Hébreux et faire d'eux tous les serviteurs de Pharaon. C'est pourquoi la pensée humaine a tellement de peine à soutenir une discussion avec un système d'éducation qui peut prouver ses arguments. C'est vrai, la pensée humaine sera toujours attirée par l'instruction. L'intelligence intellectuelle et le raisonnement ne discernent rien de ces choses. Avez-vous vu le film de Cecil DeMille, Les 10 commandements? Je pense que beaucoup l'ont vu. En général, je ne trouve pas qu'il soit bon d'aller au cinéma, mais si vous n'avez rien de mieux à faire, je vous recommande d'aller voir ce film. Ce serait très bien. Quelques-uns des frères y sont allés et m'en ont parlé. Il y a bien des années, je ne suis pas allé au cinéma, mais je suis finalement allé voir ce film dans un drive-in. J'ai vu que c'était, c'est pourquoi j'ai pu dire à l'église, si vous voulez aller le voir, allez-y, c'est très bien. La ruse du diable est vraiment bien représentée. Il montre très bien comment il s'est introduit là pour les faire mettre à mort ses enfants et comment la pensée intellectuelle a reçu et a cru cela parce qu'il pouvait comprendre cela. C'était une chose raisonnable. Il montre comment Dieu, pendant tout ce temps, formait son prophète et comment, d'autre part, les Égyptiens donnaient à Ramsès une formation politique pour le moment où il prendrait le pouvoir. Puis un jour vint ce grand affrontement entre la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. On voit Ramsès au milieu de tous ses dieux, et il est là et verse de l'eau dans le Nil pour adorer le dieu du Nil. Mais Dieu le frappe et son sang coule. Je trouve qu'ils ont montré d'une manière frappante ce qui s'est passé. Considérez comment la pensée intellectuelle prend toujours le chemin du raisonnement. Elle ne peut discerner l'aspect spirituel parce qu'elle n'est qu'intellectuelle. Elle ne le peut pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Il ne pouvait le discerner du temps d'Élie, ce vieux prophète aux cheveux en broussailles. Que Dieu me pardonne de dire cela. Mais si j'essaie de le représenter sous un aspect aussi ridicule que possible, c'est pour essayer de vous faire discerner l'Esprit de Dieu, comme disait Paul. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, car votre pensée glisserait dans les voies de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste sur le côté ridicule de ce grand et saint prophète à l'aspect broussailleux. Il devait avoir l'air affreux à côté d'un sacrificateur bien habillé, et d'autant plus qu'il affirmait être un homme de Dieu. Alors, qu'il se tenait côte à côte, le regard intellectuel ne voyait pas la sainteté que chez le sacrificateur. On pouvait voir sur celui-ci la tiare et l'éphod, l'huile d'onction, l'huile naturelle physique, ruisseler sur sa barbe et jusqu'au bas de son vêtement sacerdotal. On pouvait voir brûler le feu des sacrifices et tout le rituel. C'est cela que recherchait la pensée naturelle. C'est encore ce qu'il recherche aujourd'hui. L'œil est la porte de l'âme. Mais l'œil spirituel est plus profond que cet œil-là. Il regardait ce vieil homme ébouriffé et velu qui se tenait là, vêtu d'une peau de brebis, une ceinture de cuir autour des reins. Il était probablement pieds nus, les bras maigres et décharnés, une grande barbe blanche lui couvrant presque tout le visage et qui tenait un bâton noueux à la main. Mais l'œil spirituel pouvait voir en lui se mouvoir la puissance de Dieu parce qu'il était exactement dans la parole. Ce n'est pas ce que voit l'œil naturel qui compte, c'est ce que voit l'œil spirituel. Aujourd'hui, l'œil naturel voit l'éclat des églises, la fraternité avec les autorités dans le cadre des dénominations et ses organisations, mais il n'est pas capable de discerner la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il ressuscite les morts et guérit les malades. Il regarde à Hollywood et à l'homme de la rue. Les femmes pensent, cette femme, Suzy, appartient à l'Église. Elle porte les cheveux courts, elle est maquillée dans la ville. Tout le monde l'aime bien. Mais pour ce qui est du ciel, je me demande. Lorsque c'est contraire à la parole, Dieu ne peut l'approuver. S'il l'approuvait contre lui-même, il renierait sa propre parole. Et sachez-le bien, Dieu ne fera jamais cela. Les cieux et la terre passeront, mais une femme aux cheveux coupés sera toujours un objet de malédiction aux yeux de Dieu, de même qu'une femme qui porte des vêtements d'homme. Voyez, l'œil spirituel, c'est dit cela. Il vit pour les choses futures. La pensée charnelle vit pour raisonner sur les choses charnelles d'aujourd'hui. Vous remarquerez que lorsque Dieu fit ces choses, les gens ne remarquèrent rien. La pensée charnelle se laissait conduire par le raisonnement. Mais maintenant, Dieu nous appelle à un exode spirituel. Alors qu'autrefois, il appelait son peuple à un exode physique, il appelle aujourd'hui à un exode spirituel. À qui envoie-t-il cet appel? À ses élus et à eux seuls. L'Égypte ne pouvait voir qu'Israël était juste, bien qu'il eût le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de la porte, et malgré les choses qui étaient en train de se passer, Dieu était descendu dans son prophète et parlant par la bouche d'un homme, il l'avait fait se tenir là et tendre vers l'Orient le bâton sur lequel il s'appuyait. Il avait ordonné de dire qu'il y ait des mouches sur tout le pays d'Égypte. Puis il s'en était retourné. Tout le monde disait, il n'arrivera rien. Et en effet, rien n'arrivait. Mais voici que bientôt une petite mouche verte se mit à volter de ceci, de là. Un instant plus tard, il y en avait peut-être 1 kilo par mètre carré. Un homme les avait créés par sa parole. Il y avait là Ramsès l'intellectuel. C'est un homme très religieux. Mais il était opposé à l'esprit du Dieu vivant. La pensée naturelle ne pouvait rien discerner de plus que Ramsès. Mais la pensée spirituelle voyait la promesse. Et la voyait en train de s'accomplir. Si seulement Josué et Caleb avaient pu prononcer une parole qui réduise à néant d'un seul coup ces Amalécites, ces Éviens et ces Jébusiens, ils sont 3 ou 4 fois plus grands que nous. Lorsque les espions retournèrent au camp à Kadesh-Barnéa, l'homme charnel dit, « Nous n'y arriverons jamais, ils sont beaucoup trop forts. Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. » Mais Josué et Caleb avaient vu la promesse de Dieu, c'est pourquoi ils dirent, « Nous sommes plus que capables de nous en emparer. » Voyez, ils regardaient ce que Dieu avait dit, « Je te donnerai ce pays. » La pensée charnelle ne saisit pas cela, mais la pensée intellectuelle le comprend. Je vais vous demander quelque chose. Pourquoi les Égyptiens ne virent pas la chose? Parce qu'ils n'étaient pas des élus. Dieu annonça ces choses à Abraham avant qu'elles n'arrivent. Écoutez cela, Église endormie. Dieu annonça ces choses à Abraham avant qu'elles n'arrivent. Il lui dit, « Ta postérité séjournera en Égypte pendant 400 ans, mais je la ferai sortir. » C'est la raison pour laquelle ils virent cela. Il avait été élu pour voir cela. C'était l'élection. Israël avait été élu pour voir le signe de Dieu et sortir de l'Égypte où les incrédules périrent. Et aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la semence spirituelle d'Abraham, qui a la même foi que lui dans la parole de Dieu. Voyez-vous ce qu'est la semence spirituelle d'aujourd'hui? Ce n'est pas celle qui regarde à l'Église intellectuelle, c'est celle qui regarde à la parole. Elle a été appelée à sortir de ces grandes dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Comprenez-vous cela? Bien, alors continuons. C'est pour les élus seulement. Les docteurs en théologie n'y voient rien du tout. Ils n'ont pas été élus. Et rappelez-vous que cette élection qui se manifeste maintenant n'est pas simplement passée d'un pays dans un autre pays. Elle va conduire les élus vers la gloire, là où leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Cela ne se passera pas sous le signe d'un petit agneau naturel, d'un animal semblable à celui qui a permis à Israël de sortir d'Égypte, mais qui ne les a pas empêchés de retomber et de retourner en arrière. Maintenant, ce ne sera plus possible. Nous sortons aujourd'hui sous le signe du sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et le nom des élus a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Les élus sont là et lorsque la lumière commence à diriger ses éclats sur eux, les murs dénominationnels s'effondreront autour d'eux et ils viennent. Sortez du milieu d'elles, a dit le Saint-Esprit dans ces derniers jours. Ne touchez rien d'impur, je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. Israël était attentif. Il savait que Dieu parlait au travers de ses prophètes et que la parole venait par eux. C'est pourquoi ils vinrent pour voir et ils virent. Aujourd'hui, Nous voyons le signe de l'intellectualisme. Ce signe, c'est qu'ils croient en leur organisation. Ils sont encore dans leur credo. C'est comme Balaam lorsqu'il monta sur la montagne pour voir Israël. De là, on pouvait voir Israël. Ce n'était pas une grande nation. Ce n'était rien qu'un petit peuple. De plus, ils étaient coupables. Moab, son frère, l'intellectuel, l'homme de la grande organisation, a monté sur la montagne avec leur évêque et leur prophète. Il va à un autel et offrit le même sacrifice. Pourtant, ils ne discernèrent pas la colonne de feu et le rocher frappé qui se tenait au milieu d'Israël. C'est pareil aujourd'hui. La pensée intellectuelle regarde à la célébrité, mais ne voit pas le rocher frappé. Mais les évêques ne purent discerner la puissance du Saint-Esprit et le cri du roi dans le camp. Ils n'avaient rien de tout cela. C'est pareil aujourd'hui. Dieu appelle son peuple élu. Leur élection se manifeste maintenant. En vue de quoi sont-ils élus? En vue d'une résurrection. Et quel est le signe qui leur montre? Un signe de résurrection. Autrefois, quel signe leur montra-t-il? Un signe de délivrance, leur annonçant qu'ils allaient être délivrés de la captivité, le signe d'une puissance qui pouvait fermer les cieux et produire des ténèbres. Maintenant, il manifeste la puissance de la résurrection de son Fils qui vit au milieu des siens pour les faire sortir de la tombe. C'est bien dans un cimetière que nous vivons. Et les conduire dans le pays de sa promesse. Le signe de la résurrection nous appelle à sortir de l'Égypte et de la Babylone spirituelle. Je vais encore répéter cela lentement afin que vous le saisissiez bien. Dieu agit de la même manière qu'au commencement. Il aveugle les yeux de l'incrédule et ouvre ceux du croyant. Remarquez, du côté intellectuel, c'est la politique qui agit, la politique dans l'Église, la politique dans les nations. L'autre aspect des choses leur est caché parce qu'il s'agit d'une cause spirituelle. Dieu a pris un homme dans le désert et l'a instruit, puis il le ramena et par lui prit les choses en main et délivra le peuple. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne peut changer son programme. Il est Dieu. Il n'agira jamais par un groupe de gens, il ne l'a jamais fait. Il agit au travers de l'individu, comme il l'a fait autrefois et comme il le fera, selon ce qu'il a promis dans Malachie 4. C'est ainsi qu'il fera, c'est vrai. Voici donc la promesse de ce qu'il était, la promesse de ce qu'il a dit qu'il ferait. Voilà où nous en sommes. Quel peuple heureux nous devrions être, leur manifestant le signe de sa parole promise. Il a promis qu'il le ferait. Il restaurera la foi du peuple. Il ramènera le cœur de son peuple à la foi des pères de la Pentecôte originale. Il a promis qu'il le ferait. Il en a montré les signes. Ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et quel genre de signes les églises virent-elles à Sodome? Que vit l'église intellectuelle? Deux prédicateurs. Mais que vit l'Église spirituelle, les élus, Abraham et les siens? Dieu manifesté dans un corps de chair, dans une chair humaine, pouvant discerner les esprits et dire ce que Sarah se disait derrière lui. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons le Saint-Esprit au milieu de nous, faisant les mêmes choses, agissant dans l'être de chair. L'heure est là. Voyez-vous? Nous y sommes arrivés, chers amis. C'est tout. Un exode est en train de se réaliser. Remarquez maintenant quelque chose. Quel moyen employa-t-il pour faire cela? Remarquez-le bien. Et pour cela, revêtez votre pensée spirituelle. Puisse le Saint-Esprit vous faire relever votre vieille visière d'indifférence et regarder très attentivement. Lorsque Dieu a pris une fois la décision de faire quelque chose d'une certaine manière, il ne change plus jamais. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a pris la décision de racheter un homme pour le ramener dans sa communion fraternelle, il prit une décision, c'était de le faire par le sang. Les hommes ont essayé l'instruction, ils ont essayé la dénomination, ils ont essayé la nationalisation, tout le reste, mais cela ne marchera jamais. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu acceptera jamais de rencontrer l'homme, c'est sous le sang répandu, comme au jardin d'Éden. Cela n'a jamais changé du temps de Job. Le seul endroit où Dieu rencontrait l'homme était l'agneau du sacrifice. Du temps d'Israël, le seul endroit où Dieu rencontrait l'homme était l'agneau du sacrifice, comme dans le jardin d'Éden, toujours sous l'agneau du sacrifice. Le seul lieu où il nous rencontre aujourd'hui n'est pas dans les dénominations. Elles font des histoires et se disputent entre elles. Il n'est pas dans le monde religieux. Ils font la même chose. Il n'est pas chez les individuels. Ils sont dans une confusion complète. Il est sous le sang de l'agneau. Là, chaque croyant peut venir dans la communion, là où il a la vie. Lorsque le temps de l'Exode fut venu, Dieu appela un groupe de gens. Parmi ce groupe, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. De tout ce groupe, il n'y en a eu que deux qui entrèrent dans la terre promise. Quel moyen a-t-il employé pour les conduire là? La politique? L'organisation? Non, il a choisi un prophète. Il lui donna le signe surnaturel de la colonne de feu afin que le peuple ne se trompe pas. Ce que disait le prophète était la vérité. Dieu a descendu dans une colonne de feu et a confirmé en manifestant sa parole, n'est-ce pas vrai? C'est ainsi qu'il prépara un premier exode, le deuxième exode. Dieu fait toujours les choses par trois. Il est parfait dans le nombre trois. Vous avez pu remarquer que dans ma prédication, je parle toujours des nombres trois et sept. Sept montre que quelque chose est complet. Trois est le nombre de sa perfection. Il y a le premier, le deuxième et le troisième pôle et tout le reste, justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, et ainsi de suite. Remarquons, d'abord, comme il eut lieu le premier exode, il envoya un prophète loin de la colonne de feu. Il appela le peuple au dehors. Il fut le premier exode. Lorsque le temps d'Israël fut achevé, il envoya de nouveau un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel, semblable à une colombe. Et Jésus a dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. » Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saül de Tarse en chemin pour Damas, vit cette même colonne de feu. Étant un Hébreu bien enseigné dans la parole, il dit, « Seigneur, qui es-tu? » Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur. Il était Hébreu. Il dit, « Qui es-tu? » Le Seigneur répondit, « Je suis Jésus. » Pour le deuxième exode, il suscita un prophète, loin son fils, le Dieu prophète. Moïse avait annoncé qu'il serait prophète. Lorsqu'il vint, il y eut une colonne de feu. Il vit des signes et des miracles. Et ce prophète dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il a promis que les mêmes choses arriveraient dans l'exode du temps de la fin. Il ne peut rien y changer. Par des preuves scientifiques, par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons aujourd'hui cette glorieuse colonne de feu se mouvoir au milieu de nous. Nous voyons aussi les signes et les miracles de la résurrection de Jésus-Christ appelant les hommes du milieu des dénominations pour venir en la présence de Jésus-Christ et se mettre en route pour la terre promise. Chers amis, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. Je ne suis que votre frère, mais c'est ce que Dieu confirme devant vous. C'est cela la vérité. Cette même colonne de feu qu'il a utilisée pour les deux autres exodes, il l'a apporté parmi nous aujourd'hui et a permis que cela prouve par des moyens scientifiques. Comme vous le savez, le journal Life en a parlé le mois dernier. Combien ici m'ont entendu en parler dans cette salle avant que cela n'arrive? Vous tous de cette assemblée, je pense. C'est vrai, mais les gens ne savent pas ce que cela signifie. Les savants ont invité tous ceux qui avaient des photos à les communiquer. Ce nuage avait environ 26 000 de haut et avait la forme d'une pyramide. Cet ange y était représenté. Ils m'ont permis de vous apporter la parole de Dieu sous l'inspiration et de vous dire les temps dans lesquels nous vivons et vers quel temps nous allons. La pensée spirituelle saisira cela immédiatement et le recevra. C'est un exode, un séjour, nous nous en irons. Que Dieu en soit remercié. Rappelez-vous bien ces choses. Il me reste encore environ 10 minutes avant de terminer. Remarquez que cette colonne de feu qui les avait appelés les conduisa et conduisit vers la terre promise en moyen de l'onction d'un prophète. C'était une colonne de feu qu'ils pouvaient regarder. Elle les a conduits vers la terre promise par l'intermédiaire d'un prophète loin. Mais ils le rejetèrent constamment, n'est-ce pas vrai? Bien sûr. Je sais qu'il va y avoir un service de baptême tout à l'heure. Il me reste environ 6 pages de notes, mais je vais m'arrêter dans quelques minutes. Vous remarquerez que nous sommes dans une période où nous sommes appelés à sortir. Sortez de Babylone, mon peuple, dit une voix d'ange. De quoi faut-il sortir? De la confusion. Sont-ce les méthodistes qui ont raison, ou alors les baptistes, ou encore les catholiques? Sortez de tout cela. C'est Dieu qui a raison. Comment saurez-vous que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur? Sortez de ces choses. Que connaissez-vous? C'est cette même colonne de feu, cette même onction du Saint-Esprit qui nous conduit vers la terre promise. Remarquez que cette colonne de feu a fait sortir le peuple d'Israël et l'a conduit vers la terre promise. Aujourd'hui, c'est le même Dieu, la même colonne de feu. Lisez le rapport qu'a fait là-dessus George Lacey, le chef du service des empreintes digitales du FBI. Malgré tout, lorsque George Lacey a examiné cette photo, malgré tout, il y a des gens qui disent que c'est une double exposition. Des dizaines de milliers de gens ont regardé ce phénomène et l'ont vu de leurs propres yeux. Nous étions là et nous l'avons vu. Vous aussi, vous l'avez vu. Ce n'est pas une illusion d'optique, quoi que disent les gens. D'ailleurs, qu'a dit M. Lacey? L'œil mécanique de la caméra ne prendrait pas un phénomène psychologique. Ce n'était pas une illusion d'optique. C'était la même colonne de feu. Malgré tout, les gens disent que ce n'était qu'une illusion d'optique. Mais une centaine de milles de Tucson, 6 mois avant que cela n'arrive, je vous ai annoncé par le Saint-Esprit que j'irai là-bas pour recueillir les informations que je devais recevoir à cause de l'inscription sur la face extérieure de la pyramide. Le songe de ce frère que je vous ai interprété, c'est l'interprétation complète. Maintenant, ces mystères de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit sont expliqués. Nous avons renoué les fils perdus qui étaient cachés dans les 7 sceaux. Ce n'est pas dans les 7 âges, mais dans les 7 sceaux que les mystères ont été révélés. Donc, le songe du frère, le rocher avait été ouvert par le haut. Il y avait dessous du rocher blanc sur lequel rien n'avait jamais été écrit. C'était un mystère. Je suis allé à Tucson et je l'ai prédit avant que cela n'arrive. J'étais au nord de Tucson. Il y a ici des témoins qui pourront vous le confirmer. Quand un coup de vent se leva soudain, arrachant presque les montagnes de leur fondant, tellement il était fort. En même temps, un cercle de lumière apparut dans les airs. Des photos furent prises et les savants calculèrent que ce phénomène s'était manifesté à environ 26 000 d'altitude, environ 5 fois l'altitude maximum des nuages et des brumes. Ils n'y comprennent rien. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vous trouverez certainement le chemin de la gloire. C'est-à-dire, si vous êtes un élu, si la semence tombe sur une terre aride ou sur des cailloux, elle ne produira rien. Il y a des cœurs durs, des cœurs de pierre qui sont indifférents. Mais si cette semence tombe dans la terre meuble et douce de la foi, elle produira un chrétien portant les fruits de l'esprit. Remarquez comment Dieu a fait cela. Il a manifesté cette même colonne de feu qui avait été confirmée. Quelqu'un m'a dit, pourquoi n'allez-vous pas informer les savants de cela? Pensez-vous qu'ils le croiraient? La parole dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Jésus a dit de ne pas le faire. Je n'ai pas de directive à ce sujet. Pourtant, vivant dans la même ville ou même où cet appel d'information fut fait, je pensais y aller, mais le Saint-Esprit me dit, reste en dehors de tout cela. Ce n'est pas pour eux. Retourne et va le dire au tabernacle. Le Seigneur dit, ce qu'il dit arrive, alors souviens-toi que c'est moi qui ai parlé. Avant que cela arrive, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez ce que dit la Bible. C'est la voix de Dieu qui vous appelle aujourd'hui. Je voudrais que vous remarquiez bien que cette même colonne de feu conduit de nouveau le peuple vers la terre promise. Le millénium. Nous avons découvert cela sous l'inspiration du 6e sceau. Jamais auparavant, on avait enseigné comme la terre devait être purifiée pour le millénium. La colonne de feu conduit le peuple vers le millénium. Remarquez cette colonne de feu qui avait conduit Israël de l'esclavage vers l'Exode. Le peuple était sous la conduite de la colonne de feu, sous la conduite de Dieu. Dieu était le feu. Et la colonne de feu oignait que le prophète, la colonne de feu se tenait là comme un témoin céleste, confirmant que c'était Moïse qui avait été choisi. Vous vous rappelez de ce que Dathan et sa troupe avaient dit? Nous allons faire une organisation. Moïse, tu veux faire tout seul. Tu essaies de nous faire croire que tu es le seul qui soit saint parmi nous. Toute l'assemblée du Seigneur est sainte. Comment peux-tu vouloir tout prendre pour toi? Moïse tomba sur son visage et se mit à pleurer. Mais Dieu lui dit, sépare-toi d'eux, je vais ouvrir la terre et les engloutir. C'est un type. Moïse le répéta ce que Dieu lui avait dit et Dieu le confirma comme étant la vérité. Marie, la prophétesse, et Aaron parlaient contre Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Ils se moquèrent de lui. Mais Dieu s'irrita de ce qu'ils avaient parlé contre son serviteur. Que fit-il? Il les appela à l'entrée du tabernacle. Marie avait beau être une prophétesse, Moïse, lui, était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. Dieu leur dit, « Ne craignez-vous pas Dieu lorsqu'il aura parmi vous un prophète? C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? » Dans la minute qui suivit, Marie fut frappée de la lèpre. Vous connaissez l'histoire. Jésus n'a-t-il pas dit de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète? » Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Pourquoi était-il plus qu'un prophète? Parce qu'il était le messager de l'Alliance, l'arche qui réunissait les deux dispensations. Et aujourd'hui, ce que nous avons parmi nous, ce glorieux Saint-Esprit, c'est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté au milieu de nous avec sa parole qui le confirme. Il fait plus qu'un prophète, mille fois plus que ce que font les prophètes. Élie, l'un des plus grands prophètes de son temps, ne fit que quatre choses surnaturelles dans une vie d'environ 80 ans. Élisée, avec une double portion de l'esprit, en fit huit. Aujourd'hui, nous avons pu en voir des milliers et des milliers de nos propres yeux. Regardez l'ange du Seigneur dans la colonne de feu. La science l'a apporté dans le monde, étant donné que le monde doit être jugé par cela. Que fit l'agneau? C'était l'ange du Seigneur qui était Christ. Vous le croyez? Dans Jean 6, nous voyons que tous burent de cette eau, passèrent un bon moment et se réjouirent. Mais Jésus leur dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le rocher qui était dans le désert. » Ils lui ont dit, « Maintenant, nous savons que tu as un démon. Tu es fou. Tu as un démon. Tu es un fou démoniaque. » Il disait que cela parce que, vous savez, il y a parfois des gens qui ont eu en eux un esprit religieux qui les fait agir d'une manière très religieuse. Ils ont dit, « Tu as un démon. Tu es un Samaritain. Tu as un démon. » Il dirait encore, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. » Mais lui, reculant de quelques pas, il leur a dit, « Je suis celui qui suis. » Avant qu'Abraham fût, je suis. C'était un feu ardent, cette colonne de feu dans le buisson. Après qu'il fut mort et ressuscité le troisième jour, lorsque Saül le vit sur la route, il était de nouveau la colonne de feu. Il avait dit, « Je viens de Dieu et je m'en retourne à Dieu. » Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu vint ouvrir les portes et le fit sortir, c'est vrai. Où cette colonne de feu les conduisait-elle? Rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu, il était le conducteur oint qui marchait sous la colonne de feu. La colonne de feu ne faisait que confirmer son message avec des signes et des miracles. Et la colonne de feu les conduit vers le pays où Dieu leur avait promis qu'une fois ils seraient faits chair au milieu d'eux. N'est-ce pas vrai? Mais que firent-ils? Ils murmurèrent et se rebellèrent, ce qui montre bien qu'ils n'étaient que sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois, gloire à Dieu! La colonne de feu que nous voyons aujourd'hui nous conduira jusqu'au millénium. Après cet exode, il retournera vers son peuple dans ce glorieux règne du millénium où nous vivrons avec lui pour l'éternité. Il a toujours la parole du Père et nous prouve toujours qu'elle est la vérité. Nous sommes dans un exode. Nous allons arrêter cet enregistrement dans un moment. Mais auparavant, mes amis, mes frères, ici présents et au loin, quand vous écouterez ces bandes, laissez-moi vous dire, en tant que frère et citoyen du royaume de Dieu, Sortez! Venez dans cet exode, car tous ceux qui seront laissés en arrière porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone! Sortez de cette confusion! Sortez de ce système! Et servez le Dieu vivant. Laissez venir ce glorieux ange de l'Alliance, Jésus-Christ, qui est venu en forme de Dieu. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée de devenir égal à Dieu. Aujourd'hui, il est la même colonne de feu que celle qui conduisait autrefois le premier exode, puis le deuxième exode. Le voici en train de conduire le troisième exode. Que fit-il lors du premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel pour les conduire dans un pays naturel. Dans le deuxième exode, il les fit sortir d'un état spirituel pour les conduire dans un baptême spirituel, celui du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les conduit du baptême spirituel du Saint-Esprit pour les faire retourner dans le pays éternel, du millénium et du glorieux futur. C'est la même colonne de feu qui agit par le même système moins, le même Dieu faisant les mêmes choses. La parole qui a annoncé le deuxième exode est la même que celle qui a annoncé le premier, et c'est encore la même parole qui a annoncé le troisième exode, et nous le voyons manifester parmi nous. Sortez! Oh, sortez de ce chaos! Venez au Dieu vivant! Venez à la parole! La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Aujourd'hui, elle habite parmi nous dans notre chair. Sortez pour venir servir le Dieu vivant tandis que nous inclinons la tête. Mon peuple, je dois vous parler en cette heure. Gardons nos têtes inclinées. Du plus profond de votre âme, du plus profond de tout ce qui est en vous, êtes-vous prêt à abandonner les choses de ce monde et à vivre pour Dieu? Si vous ne le voulez pas, ne le faites pas. Mais si vous le voulez de tout votre cœur, si vous êtes convaincu maintenant, alors, c'est comme lorsque Jésus dit vers la fin de son ministère, « Vous croyez maintenant? Êtes-vous convaincu que ces choses sont la vérité, qu'elles ont été confirmées par Dieu et que nous sommes au temps de la fin? Voulez-vous maintenant venir véritablement à Christ, entrer dans cet exode qui vous appelle à sortir de l'indifférence, des dénominations, des idées et des choses de ce monde? Voulez-vous vous abandonner de tout votre cœur à lui et entrer dans cet exode qui vous conduira vers le pays béni de la promesse? Si c'est le cas, voulez-vous lever la main tandis que nous prions? Êtes-vous réellement sûr que vous voulez sortir? Tous? Père Céleste, veuille faire sortir tous ceux qui ont levé la main, selon la promesse de la parole, faire entrer le Saint-Esprit dans leur cœur. Dans cette assemblée, il y a environ une vingtaine de mains qui se sont levées, je suppose, Père. Ils sont convaincus et satisfaits et savent que c'est la vérité et voudraient se mettre en ordre. Du temps de la sortie d'Israël sur environ 2,5 millions qui sortirent d'Égypte, deux seulement de cette génération entière dans le pays de la promesse. Du temps de Jésus-Christ, il y en eut 120. Pour ce qui est d'aujourd'hui, du temps de la fin du monde, tu as dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin, qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Ces paroles ne peuvent mentir, ce sont les tiennes. Je te prie pour eux, Seigneur. Je te prie afin qu'en cette heure, par ton Saint-Esprit, tu circoncises leur cœur. Enlève d'eux tout ce qui est du monde. Circoncis leur oreille afin qu'ils puissent entendre clairement la voix de Dieu qui appelle par sa parole et par la lumière de ce jour. Puisses-tu faire en sorte que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans ces dernières heures de la fin. Tu as dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et je les ressusciterai au dernier jour. Seigneur, il y en a peut-être beaucoup ici qui ne comprennent pas encore. Je te prie afin que tu t'occupes d'eux et que tu leur donnes encore une chance de comprendre. Ils t'ont entendu parler au travers de ta parole. Tu t'es confirmé. Tu nous as parlé par une voix surnaturelle et tu nous en as donné l'interprétation. Tout cela afin que nous puissions voir tes œuvres glorieuses confirmées comme étant vrai selon la Bible. Maintenant, je te prie, Seigneur, pour te demander de nous pardonner nos péchés. Je me repose sur ta parole, ô mon Dieu. Je pense à ce qui s'est passé il y a juste une semaine. Ici même, sur ce plancher, je me suis penché sur cet homme qui venait de mourir et j'ai vu le glorieux Saint-Esprit le ramener à la vie. Ses yeux étaient révulsés, il était étendu là, mort. Mais après avoir prononcé quelques mots pour invoquer ton nom, je le vis revenir à la vie, et maintenant il est ici, vivant. Seigneur, tu es le même Dieu que celui qui se manifesta lorsque Paul se pencha sur cet homme qui était tombé de la fenêtre pour s'être endormi après l'avoir entendu prêcher si longtemps. Tu es le même Dieu qui peut redonner la vie. Nous te remercions, Père. Peut-être que les incrédules ne croient pas, mais nous, nous croyons, Seigneur. Tu t'es confirmé devant nous. Que la méditation de mon cœur, les pensées de mon esprit, ma force, tout soit imprégné de ta parole. Et que ta parole et moi et ton peuple puissions ensemble marcher vers le royaume de Dieu. Puisses-tu nous l'accorder, Seigneur? Parle-nous de nos péchés, guéris nos maladies et fais de nous des sujets de ton royaume. Maintenant, Seigneur, ils vont venir ici, on va ouvrir le baptistère, l'eau est prête et les baptêmes vont commencer dans quelques instants. Et nous nous rappelons que la Bible dit que lorsque cet évangile était prêché, tous ceux qui crurent furent baptisés. Il y a ici des mouchoirs, Seigneur, sur lesquels j'impose les mains au nom de Jésus-Christ pour la guérison des malades. Si notre prédication est longue, c'est parce que l'heure est avancée. Nous devons semer la parole pendant que la terre peut la recevoir, car les frimas de l'hiver s'approchent. Nous le voyons, les feuilles tombent et nous voyons l'hiver approcher. Nous devons nous dépêcher de retourner la terre et d'y cacher la semence. C'est pourquoi je te prie, Père Céleste, de parler à tous les cœurs. La Bible dit « Tous ceux qui crurent furent baptisés ». Et Seigneur, il y en a ici beaucoup qui ont cru, mais qui n'ont jamais été baptisés au nom de ton bien-aimé Fils Jésus. Puissent-ils venir ici ce matin dans la douceur et l'humilité, confessant leurs péchés et mourant aux choses de ce monde afin d'être ensevelis, de prendre le nom de Jésus-Christ et de vivre dans la sainteté dès aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. C'est dans ce dessein, Seigneur, que nous te les confions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse maintenant la parole à Frère Neville pour préparer le service de baptême et tout ce que... Et ce soir, à 7h30, Dieu voulant, je voudrais enregistrer un autre message. Que Dieu vous bénisse.